Bon, je suis donc enseignant-chercheur à l'université Paris-Sud, donc maître de conférence. Maître de conférence, ça veut dire qu'on fait à la fois de l'enseignement et de la recherche. Donc au niveau enseignement, eh bien, j'enseigne à l'université Paris-Sud. Et au niveau recherche, j'ai un petit groupe de recherche à l'Institut de génétique et microbiologie sur le centre scientifique d'Orsay. Voilà, je travaille sur un champignon microscopique du sol, mais j'aurai l'occasion d'en dire deux, trois mots pour illustrer un de mes arguments à un moment donné, donc je ne vais pas trop m'étendre maintenant. Et puis, je travaille également sur la levure de boulanger. Et voilà, que j'utilise comme des outils pour faire de la recherche fondamentale. Moi, je fais de la recherche fondamentale, c'est-à-dire de la recherche qui a pour but de comprendre comment ça marche. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, en préambule, je voudrais dire que je suis, disons, un chercheur du service public, et je le revendique. Et en tant que chercheur du service public, je crois qu'il est de notre devoir, ou en tout cas, ça devrait être de notre devoir, d'informer justement le grand public sur ce qui se trame dans nos labos. Je crois que l'époque où les chercheurs travaillaient tout seuls dans leur coin, sans se soucier du reste de la société, est, ou en tout cas devrait être révolue. Parce que la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, elle a inévitablement des retombées donc sur la société. Je crois que les OGM en sont un parfait exemple. Et par conséquent, je crois qu'il est du devoir, effectivement, du chercheur indépendant, du chercheur du service public, eh bien, de donner à chaque citoyen les outils qui vont justement lui permettre de participer à des grands débats citoyens sur des sujets aussi fondamentaux que les OGM, le clonage thérapeutique, le clonage humain, le nucléaire, j'en passe et bien d'autres. Alors, ce dont je vais vous parler donc ce soir, c'est donc bien des OGM. Alors, les OGM, vous en avez tous beaucoup entendu parler depuis, disons, une quinzaine d'années, grand maximum, 10-15 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Autrement dit, depuis qu'ils ont été introduits dans le monde agroalimentaire. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que les OGM ne sont pas que agroalimentaires. Ça fait 30 ans qu'on utilise les OGM, Jean-Pierre Berland en a parlé tout à l'heure, depuis le début, le milieu des années 70, hein. Ça fait donc 30 ans qu'on utilise les OGM en espace confiné dans les laboratoires pour faire de la recherche fondamentale ou encore... Ah, c'est trop fort, hein, c'est ça? Je vous avais prévenu, hein? D'accord. Ça fait 30 ans qu'on les utilise donc pour faire de la recherche fondamentale et pour faire également dans le domaine médical. Alors, en fait, les OGM ont donc multiples domaines d'application, multiples facettes. Et ce sont un petit peu ces multiples facettes que j'ai représentées ici de façon caricaturale, à savoir, est-ce que les OGM sont des organismes géniaux et merveilleux ou des organismes génétiquement monstrueux ou encore des outils génétiques de marketing? En fait, je laisse libre cours à votre imagination pour me trouver d'autres propositions derrière l'acronyme. En général, je repars toujours avec des propositions nouvelles. Donc voilà, ça me permet de renouveler, même si j'ai tendance à conserver celle-là, parce que c'est de moi. Bon, voilà. Mais bon, en fait, ce qui est important, justement, je crois que, bon, j'espère qu'il y a beaucoup de choses que vous vous souviendrez quand vous repartirez ce soir, mais il y a une chose au moins dont je voudrais être certain que vous vous souviendrez, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger, pas faire d'amalgame. Quelle que soit la position sur la question, même si on est opposé à l'ensemble des OGM, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les problèmes posés par les OGM ne sont pas du tout de même nature en fonction du domaine dans lequel on les utilise. Et il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui m'hérissent le poil, mais une en particulier, c'est quand j'entends des scientifiques à la télévision, par exemple, qui ont tendance systématiquement, enfin plus que tendance, qui systématiquement amalgament tous les OGM, et c'est fait bien sûr de manière tout à fait consciente de leur part et de façon tout à fait malhonnête, parce qu'en général c'est fait pour utiliser la vitrine médicale pour mieux servir leurs arguments dans l'agroalimentaire. Et ça c'est quelque chose que je trouve foncièrement malhonnête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la télévision, à chaque fois qu'il y a une émission sur les OGM, ça commence en général par un petit film qui a la prétention, soi-disant, d'expliquer au grand public ce que sont les OGM, et ce petit film se résume en général par un sandwich où on a une couche de médicaments entre deux feuilles de maïs, hein, histoire de bien amalgamer le tout, et puis évidemment, hein, dans le pays où on aime jouer la corde sensible avec le Téléthon, ça marche plutôt assez bien. Alors voilà, donc ça c'est quelque chose, je vais moi m'évertuer tout au long de mon propos, eh bien, à séparer les différents domaines, pour justement que vous voyez que les problèmes posés ne sont pas les mêmes, même si effectivement on est très réticent sur l'utilisation des OGM dans tous les domaines. Mais vous allez voir que l'argumentaire que vous serez amené à déployer, si par exemple vous voulez argumenter contre ou pour d'ailleurs, eh bien c'est pas du tout, sera pas du tout de même nature. Alors, mon intervention va s'articuler de la manière suivante. Je vais d'abord définir ce qu'est un OGM. Alors, comme l'a dit Jean-Pierre Berland tout à l'heure, même si effectivement la définition d'un OGM est un petit peu absurde en tant que telle, mais n'empêche qu'elle existe maintenant, cette définition, et on est obligé de faire avec. Et donc, je vais donc définir, vous donner ce qu'est la définition officielle d'un OGM. Et le problème des définitions, c'est comme quand on va chercher un mot qu'on ne comprend pas dans le dictionnaire, il est souvent expliqué par d'autres mots qu'on ne comprend pas. Alors du coup, il faut aller chercher un petit peu plus loin, mais c'est comme ça qu'on s'enrichit. Alors vous aurez peut-être ce sentiment-là quand je vais vous donner la définition des OGM, mais je vous rassure, ça devrait s'éclaircir dans la suite de mon propos, donc partez pas dans les premières minutes. Et puis ensuite, je vais vous donner quelques aspects techniques. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ce sera extrêmement vulgarisé, extrêmement simplifié, et je vais essayer de rendre ça le plus ludique possible. Mais je vais vous donner quelques aspects techniques pour comprendre sur quoi repose la possibilité pour l'homme de fabriquer des OGM. Je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce que autant je pense qu'on n'a pas besoin d'être biologiste pour avoir un avis sur la question, ça certainement que non, mais d'un autre côté, je pense qu'on peut difficilement faire l'économie totale de l'aspect technique pour éviter justement de se laisser dire tout et n'importe quoi. Moi, j'avais assisté justement un jour, j'étais dans la salle, j'étais pas l'intervenant, et j'assistais à un débat, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est justement suite à l'intervention, enfin à ma participation à ce débat, enfin à ma participation en tant qu'auditeur, que j'ai décidé, moi, de m'investir dans le sujet. J'ai toujours eu envie, depuis très longtemps, de faire de la communication scientifique, puisque je considère qu'il y a un énorme fossé entre le monde scientifique et les citoyens, et que moi, je fais partie des gens qui pensent que la science doit avoir un contrôle, doit être soumise à un contrôle citoyen. Donc, j'avais très envie de faire de la vulgarisation scientifique, et j'ai choisi, bien sûr, le terme des OGM, parce que ça intéresse le grand public, c'est un sujet de société, c'est un choix de société, les OGM, avant tout, plutôt qu'un choix scientifique, ou c'est avant tout un choix de société. Et vous allez voir que c'est extrêmement important mais d'avoir au moins entendu, vu ou lu au moins une fois cet aspect technique pour justement ne pas se laisser berner, ne pas se laisser dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça, je m'en excuse par avance, ce sera néanmoins un petit peu technique, ça va durer 7-8 minutes, mais ça va vous permettre certainement, je pense, de mieux comprendre la suite de mon propos, et ensuite, probablement, de savoir parfois poser les bonnes questions à des personnes qui essaient de vous rouler dans la farine. Et puis, je terminerai par des exemples concrets de l'utilisation des OGM, donc dans les différents domaines, le domaine de la recherche fondamentale, où je vais vous donner donc un exemple pourquoi on utilise des OGM en recherche fondamentale, le domaine médical avec la production de protéines d'intérêt pharmaceutique, et puis je terminerai bien sûr par le domaine qui nous préoccupe essentiellement ce soir, le domaine agricole, le domaine agroalimentaire, en vous disant ce qui se fait, et puis en soulevant les questions nouvelles que pose l'introduction des OGM dans l'agriculture et dans la chaîne alimentaire. Donc je terminerai avec des questions notamment d'ordre environnemental et sanitaire. J'essaierai de faire en sorte que ce soit essentiellement des questions pour mieux alimenter le débat avec la salle. Mais néanmoins, je serai obligé aussi de donner quelques réponses parce qu'on en a quelques-unes quand même. Alors, chose promise, chose due, qu'est-ce qu'un OGM ? Donc la définition telle qu'elle est donnée aujourd'hui. Donc un OGM, un organisme génétiquement modifié, la définition académique dit que, c'est-à-dire la définition officielle, qu'on trouve dans les textes officiels, dit qu'un OGM est un organisme vivant, c'est-à-dire ça peut être un animal, un végétal, un microbe, dont les caractéristiques génétiques initiales ont été modifiées de façon non naturelle par addition, suppression, remplacement ou modification d'au moins un gène. Quand je dis de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme. Et quand on a dit ça, on a défini tous les OGM, quels qu'ils soient, quel que soit leur domaine d'utilisation et d'application. D'accord ? Alors, il y a une définition un peu plus restrictive qui consiste à dire qu'un OGM, c'est un organisme vivant dans lequel on a introduit toujours de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, et on imagine mal d'ailleurs comment ça pourrait se faire autrement, un gène qui ne lui appartient pas. Un gène d'une espèce qui ne lui appartient pas. Par exemple, vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans l'éléphant est un OGM. Prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans le maïs est un OGM. Prenez un gène humain, vous le mettez dans une bactérie, la bactérie est un OGM, etc., etc. Et je vous donnerai des exemples concrets de ça dans un instant. Alors, cette définition un peu plus restrictive, je dis qu'elle est un peu plus restrictive parce qu'elle n'englobe pas tous les OGM. Elle englobe seulement les OGM qui ont un gène étranger, mais tous les OGM n'ont pas de gène étranger. Quand vous inactivez un gène dans un organisme, vous faites un OGM, même si vous n'y mettez pas de gène étranger. Donc, tous les organismes transgéniques sont des OGM, mais tous les OGM ne sont pas des organismes transgéniques. D'accord ? Et le transgène, eh bien, c'est le gène étranger que l'on prend, par exemple, de la bactérie pour mettre dans le maïs, étranger à l'organisme qui le reçoit. Et la transgénèse, c'est l'ensemble des processus qui permettent de fabriquer ces organismes transgéniques. D'accord ? Alors, tout ceci étant dit, je vais donc aborder ces aspects un petit peu techniques pour comprendre sur quoi repose la possibilité pour l'homme, les chercheurs en particulier, de fabriquer les OGM. Alors, il faut savoir que tous les organismes vivants sont constitués de cellules. La cellule, c'est on pourrait peut-être dire l'unité de la vie. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, il y a des organismes qui sont constitués d'une seule cellule. Ce sont ce qu'on appelle des organismes unicellulaires. Ce sont certains microbes, comme les bactéries, les levures, la levure de boulanger, etc. Et puis, il y a des organismes comme nous, les animaux en général, ou les plantes, qui sont constituées de milliards de cellules. Nous, par exemple, on a des cellules du cerveau, des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules du rein, des cellules sanguines, des globules rouges, des globules blancs, des cellules osseuses, etc. Enfin, c'est comme ça, faut s'y faire, on a un tas de cellules, et tout fonctionne en harmonie pour donner un organisme entier. Et puis, la plante, c'est pareil, il y a des organismes, des cellules de la tige, de la feuille, de la racine, et tout ça fonctionne en harmonie. Alors, toutes ces cellules, elles ont bien sûr des spécialités différentes. Une cellule du cœur fait pas la même chose qu'une cellule du foie, qu'une cellule du rein, qu'une cellule sanguine, etc. Mais néanmoins, toutes ces cellules, qu'elles soient végétales ou animales, elles ont des caractéristiques communes. Et ce sont à ces caractéristiques communes que je vais m'intéresser maintenant. Alors, on va imaginer, pour faire simple, qu'une cellule a la forme d'un ballon de rugby, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre elles, mais elles ont aussi, peuvent avoir des formes très bizarroïdes. Bon. Alors voilà le ballon de rugby, qu'on va couper longitudinalement pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des gens qui s'imaginent qu'une cellule, c'est un sac avec du liquide dedans. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une cellule, c'est toute une architecture, c'est extrêmement complexe. Mon schéma qui est là est extrêmement simplifié. Il y a à l'intérieur d'une cellule, il y a plein de compartiments, de vésicules, de labyrinthes. Enfin bref, c'est toute une architecture extrêmement fine. Et je vais parler, moi souvent, bon, par souci de vulgarisation, hein, d'usine. Je vais dire que la cellule est que ce qu'on a là, c'est une usine cellulaire. Alors Jean-Pierre Berland faisait allusion au fait qu'on utilisait de façon très intentionnelle, souvent une analogie avec le monde capitaliste, mais vous allez voir que mon usine, c'est plutôt une coopérative ouvrière. Mais vous allez voir, je vais y venir dans un instant. Donc, plus une coopérative ouvrière plutôt qu'une usine dans le modèle libéral tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, cette usine, donc, il y a plein de choses à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent, et il y a plein de pièces à l'intérieur de l'usine, hein, les petits compartiments dont je vous parlais, et puis il y a une pièce un peu plus grosse que les autres, là, que j'ai représentée sous la forme d'un ovoïde beige, là, qu'on appelle le noyau. Alors si on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, on y trouve des grosses molécules extrêmement compactées pour qu'elles puissent rentrer dans le noyau, et ces grosses molécules, c'est ce qu'on appelle des chromosomes. Alors les chromosomes, on en a tous un nombre bien défini. Nous les humains, on en a 23 différents. 23 chromosomes différents dans chacune de nos milliards de cellules. Ils sont tous en double, ça fait 46. Sauf dans nos spermatozoïdes et dans les ovules, où il n'y en a que 23 et 23. Et quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ben ça fait 23 et 23, 46, et c'est reparti pour un tour. Alors, moi je travaille sur la levure de boulanger qu'on a 16, je travaille sur un champignon microscopique du sol qu'on a 8, la salade, je ne sais plus combien elle en a, l'orge, je crois, en a 8, le cheval, je ne sais plus. Enfin bref, chaque espèce vivante a un nombre bien défini de chromosomes. Alors, si on prend ces chromosomes, ces molécules qui sont compactées dans le noyau et qu'on les déroule pour regarder à quoi ça ressemble, eh bien voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'en fait, un chromosome, je vais y arriver, il rétit sur mon chromosome, là. Voilà. Donc, un chromosome, c'est une grosse molécule formée de deux brins parallèles entourés autour d'un axe pour former ce qu'on appelle la fameuse double hélice d'ADN. L'ADN, c'est en fait le constituant chimique du chromosome, d'accord ? Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de cette fameuse double hélice, notamment au moment du Téléthon, qui est en général une période où les biologistes sont pris d'un élan de vulgarisation. Alors, chaque brin de la double hélice, chacun des deux brins parallèles, est constitué par l'enchaînement de quatre petites molécules à la queue leu-leu. Quatre petites molécules que l'on symbolise par quatre lettres qui correspondent à leurs initiales A, G, C, T. D'accord. Alors quand on dit qu'on a séquencé un chromosome ou une molécule d'ADN, ça veut dire qu'on a déterminé sur chacun des deux brins l'ordre de succession des quatre lettres tout le long de la molécule. Je vous donne un exemple, voilà, on a séquencé là ici un chromosome et on a AGG, TC, TA, TG, ATG, TTT, CAG, etc. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles. C'est ce qui explique qu'avec les empreintes génétiques c'est l'ordre de succession des lettres sur les différents chromosomes de l'individu, on soit capable d'identifier un individu parmi les 6 milliards de la planète. Les seuls individus qui ont exactement la même succession des quatre lettres sur leurs 23 chromosomes différents sont en fait des vrais jumeaux qui sont des clones naturels en quelque sorte. D'accord ? Alors, quand on dit qu'on a séquencé un génome, comme le génome humain par exemple, le génome c'est l'ensemble des chromosomes d'un organisme. Le génome humain c'est donc nos 23 chromosomes différents. Quand on dit qu'on a séquencé le génome humain, ça veut dire qu'on a déterminé pour chacun des 23 chromosomes l'ordre de succession des quatre lettres sur les deux brins. Ça représente, pour le génome humain, 100 livres format A4 avec 100 pages chacun. D'accord ? Et je dis bien, on a séquencé, et non pas comme on nous rabat les oreilles dans les périodes télétonesques, où on nous dit, on a décrypté le génome humain. Non, on n'a pas décrypté ou quasiment rien. Décrypter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait exactement quels sont tous les messages qui se cache derrière cette succession de lettres. Or, quand on y regarde ces 100 livres format A4 avec 100 pages chacun, qu'est-ce qu'on y voit ? Ben, on y voit des taches noires sur un fond blanc, on y voit une succession de quatre lettres, tout comme quand vous ouvrez un livre écrit dans une langue que vous ne connaissez pas. D'accord ? Et encore, il y a des points, il y a des espaces et des majuscules, là, il n'y en a même pas. Donc, effectivement, on ne sait pas tout ce qui se cache derrière tout ça. On aura décrypté le génome humain le jour où on aura compris tous les messages biologiques qui se cachent derrière cette succession de séquences et qui permettent à notre usine ici de fonctionner. Voilà, quand est-ce qu'on aura décrypté le génome humain? Alors, pour le Téléthon, on nous disait, quand on aura séquencé le génome humain, on sera arrivé au bout du tunnel. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on a séquencé et puis on voudrait bien que les gens continuent à donner. Alors, on dit, non, mais c'est pas fini, il y a plusieurs tunnels encore. Voilà, donc il faut décrypter. Alors, évidemment, quand je vous dis donc qu'il faudra décrypter le génome humain, ça veut dire qu'il va falloir identifier parmi toute cette succession de lettres, pardon, les morceaux de séquences qui détiennent une information biologique qui permet à l'usine de fonctionner. Et ces morceaux de séquences qui détiennent une information biologique permettant à l'usine de fonctionner, c'est ce qu'on appelle les gènes. Hein ? Alors, les gènes, comment on les identifie ? Ben, y a des méthodes expérimentales, il y a des méthodes informatiques maintenant qu'on a accès aux séquences. Hein, on peut faire une recherche informatique, sachant qu'un gène, ça commence toujours par ATG, ça se termine souvent par TA. Alors là, par exemple, j'ai souligné une séquence qui pourrait correspondre à un gène. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, on pourrait dire que le génome, l'ensemble des chromosomes d'un organisme, c'est une encyclopédie où chaque chromosome est un volume. Donc, nous, on a 23 volumes différents. Dans chaque volume, il y a des phrases, ce sont les gènes, et le tout est écrit dans un alphabet de 4 lettres, A, G, C, T, qui est le langage génétique. Alors, quand je dis que les gènes détiennent une information biologique qui permet à l'usine de fonctionner, c'est quoi cette information biologique? Eh bien, un gène détient le secret de synthèse, le secret de fabrication, donc le secret qui va permettre à l'usine de savoir comment fabriquer une protéine éventuellement, donc une ou plusieurs protéines. Donc, chaque gène détient le secret donc de fabrication de une ou plusieurs protéines. Alors, les protéines, c'est quoi? Les protéines, c'est des grosses molécules que j'ai représentées ici sous la forme d'une pelote de laine rouge. Hein ? Alors, vous imaginez un fil de collier de perles, et pour fabriquer cette protéine, vous allez devoir enfiler des perles sur le fil. Et les perles, il y en a 20 différentes. Vous imaginez des perles de 20 couleurs différentes. Donc, l'ADN, lui, les chromosomes sont constitués par l'enchaînement de 4 petites molécules différentes, A, G, C, T. Les protéines sont constituées par l'enchaînement de 20 molécules différentes, les 20 couleurs de perles. Et donc, pour fabriquer la protéine, vous allez prendre le fil de collier de perles, et puis vous allez mettre une perle verte, une noire, une bleue, une orange, une jaune, une rouge, une orange, une jaune, une jaune, une verte, une violette. Et qu'est-ce qui va déterminer l'ordre dans lequel il faut enchaîner les perles? Eh bien, c'est l'ordre dans lequel se succèdent les lettres sur le gène. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, la cellule, elle a besoin de faire fabriquer cette protéine rouge là en bas, elle va aller, donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont faire qu'on va aller dans le noyau, dans cette pièce de l'usine où sont les chromosomes, chercher le gène qui détient le secret de fabrication de cette protéine, et il y a toute une machinerie qui va décoder, et qui va dire, ATG, je mets une perle verte, TTT, je mets une perle bleue, CAG, je mets une perle rouge, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, quand on passe du gène à la protéine, on passe donc d'un langage génétique en 4 lettres, A, G, C, T, à un langage protéique en 20 lettres, les 20 couleurs de perles. Et d'ailleurs, ça s'appelle ce mécanisme la traduction. Ce n'est pas un terme de vulgarisation que j'utilise spécialement ce soir, c'est le vrai terme utilisé en biologie. D'accord ? On traduit le gène en protéines. Alors, ces protéines, à quoi ça sert dans l'usine ? Parce qu'il faut quand même revenir au point de départ. Eh bien, on va dire qu'elles ont deux grands rôles, les protéines. Les protéines, elles ont un rôle de structure, c'est-à-dire que les protéines, c'est un petit peu certains parpaings des murs de l'usine. À l'intérieur de l'usine, je vous dis, il y a plein de compartiments qui sont limités par des parois. Ces parois sont faites essentiellement de lipides, de graisse. Mais il y a également des protéines. C'est-à-dire que les protéines sont certains parpaings des murs de l'usine. Mais surtout, les protéines, ce sont les ouvriers de l'usine. C'est-à-dire que, à l'intérieur de chacune de nos milliards de cellules se passent des tas de processus biologiques, dont on n'en connaît qu'un fifrelin d'ailleurs. Hein, donc processus biologique, des réactions chimiques qu'on appelle des réactions biochimiques. Bien, ces réactions sont catalysées par des catalyseurs. Les catalyseurs, c'est ce qu'on appelle les enzymes. Et bien, les enzymes, ce sont des protéines. À la surface de nos cellules, il y a des grosses molécules qu'on appelle des récepteurs qui sont capables de ressentir la présence de sucre, de ressentir la présence de sel, qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Et bien, ces récepteurs, ce sont des protéines. Chez des organismes compliqués comme nous, il y a le pancréas qui sécrète des hormones qui passent dans le sang pour agir à distance. Les hormones, ce sont des protéines. Donc, les protéines sont véritablement les ouvriers de l'usine. Et je parlais de coopérative ouvrière parce que en fait tout interagit Jean-Pierre Berland disait, oui, on nous présente souvent c'est le réductionnisme du tout génétique, où on nous dit, il y a une blague comme ça qui dit, qui c'est qui commande le cerveau, le corps humain? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le derrière? Est-ce que c'est le cœur? Etc. Mais là, c'est pareil, qui c'est qui commande dans la cellule? Mais il y a personne qui commande. Je veux dire, tout est en perpétuelle interaction. Pour fabriquer le chromosome, il va falloir aussi des protéines, des ouvriers. Donc tout est en perpétuelle interaction. Et c'est un véritable imbroglio dans lequel on ne connaît qu'un fifrelin des choses qui se passent. D'accord? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça avant de vous parler des OGM? Eh bien, parce que la possibilité pour l'homme de fabriquer des OGM repose sur le fait que le langage génétique en quatre lettres A, G, C, T est le même, il est universel pour tous les organismes vivants connus à ce jour sur la planète. Je dis connus à ce jour parce que ne croyez pas qu'on les connaît tous, loin de là. Notamment dans le monde microbien, on en découvre toutes les semaines des nouveaux microbes. Et dans le sol, par exemple, on ne connaît que 5% de la rhizosphère, que 5% des micro-organismes qui vivent dans le sol. Et puis on en découvre au fond des mers, on en découvre au fond dans le Sahara, où on croyait qu'il n'y en avait pas parce qu'il y a tellement de rayons ultraviolets, on s'est dit tout doit être tué là-dedans. Bien non, il y a des micro-organismes qui vivent là-dedans, il y a des micro-organismes qui vivent au fond des mers à des pressions incroyables, sans qu'il y ait un seul rayon lumineux qui puisse pénétrer tellement c'est profond. Eh bien on trouve des organismes là-dedans. Donc on est loin de tous les connaître, hein, les organismes vivants de la planète. Mais tous ceux que l'on connaît à ce jour, à quelques rares exceptions près, ont le même langage génétique en quatre lettres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si l'éléphant ouvre le livre génétique de la bactérie, ben il est capable de le comprendre, lui, de le lire. Donc concrètement, ça veut dire que, ou le maïs est capable de comprendre le livre génétique de la bactérie ou de n'importe quel autre organisme. Ça veut dire que si on prend un gène de la bactérie et qu'on l'introduit dans le maïs, puisque le langage génétique est universel, va pouvoir prendre ce gène de bactérie à son propre compte, le décoder et fabriquer la protéine correspondante ou les protéines correspondantes. D'accord. Autrement dit, quand vous mettez un gène de bactérie dans le maïs, vous introduisez un ou plusieurs ouvriers de l'usine cellulaire bactérienne dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Et si vous mettez des nouveaux ouvriers dans l'usine, c'est pas pour regarder les autres travailler, c'est pour travailler eux-mêmes. Ils vont donc contribuer à une nouvelle chaîne de montage ou chaîne de démontage dans l'usine qui va conférer des nouvelles propriétés à l'organisme qui héberge ces mini-usines, c'est-à-dire à l'organisme qui devient alors génétiquement modifié. D'accord? Donc voilà un petit peu comment on pourrait essayer de résumer succinctement comment ça fonctionne grosso modo. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est bêta cette technologie OGM. Parce que bon, il faut en fait, il y a des choses à faire entre deux. Hein, entre le moment où on prend le gène de la bactérie et on l'introduit dans le maïs, ça marche pas comme ça. Il faut faire des petits bidouillages qui ne sont pas anodins d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Il faut faire des bidouillages qu'on fait in vitro dans un tube à essai. Il faut modifier un certain nombre de choses quand même. Même si le langage génétique est universel, ça marche pas quand même comme ça. Il y a des petites choses à modifier, des éléments de régulation, enfin bref, etc. Et à ce moment-là, après avoir fait ce bidouillage, on fabrique une chimère génétique. Hein, donc on va mettre un petit bout d'un gène de virus, un petit bout de gène de bactérie, enfin bref, etc. Et on va introduire tout ça au bout du compte, donc dans la plante ou dans autre chose. D'accord? Voilà, alors c'est bêta parce que ça peut paraître, on essaie d'en faire quelque chose, une montagne, mais c'est complètement bêta. On peut prendre un gène de n'importe quoi, grosso modo, et le mettre de n'importe quoi, à quelques bidouillages près, ça va marcher. Enfin, ça va marcher pour ce qu'on espère que, pour ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, ça devrait donner telle propriété, et ça, effectivement, on va le voir. Maintenant, savoir ce que ça fait à côté. Le problème, c'est qu'on nous raconte toujours que c'est une méthode chirurgicale. Je peux vous dire que si le chirurgien maîtrisait la chirurgie, comme nous, les biologistes moléculaires, on maîtrise la transgénèse, et je voudrais pas me faire opérer. Hein. Parce que, vous savez, par exemple, pour faire rentrer de l'ADN dans une cellule, on y va à coup de choc électrique, des bactéries, par exemple, on les met dans un champ électrique à 2500 volts, il y en a 95% qui crèvent, et dans les 5% qui restent, il y a un fifrelin qui va récupérer de l'ADN parce que le choc électrique aura fait des trous dans la membrane. Jean-Pierre Berland en parlait tout à l'heure, il y a le système de bombardement, le canon à gènes pour des cellules végétales, par exemple, qui elles sont entourées d'une paroi extrêmement solide, donc qui rend difficile la pénétration de l'ADN. On prend des petites balles, des petites particules de tungstène ou d'or qu'on enrobe de l'ADN qu'on veut faire pénétrer dans la cellule, et puis on va bombarder avec une sorte de petit revolver une couche de cellules végétales. Alors, faites comme vous voulez, mais si vous voyez un chirurgien avec un revolver, je pense pas que vous irez vous faire opérer, mais bon, voilà. Ça n'empêche pas aux gens de dire que c'est chirurgical. Voilà, alors le premier domaine d'utilisation et d'application des OGM, c'est le domaine de la recherche fondamentale. Quand je dis le premier domaine, c'est à la fois d'un point de vue chronologique, Et également, chronologique, parce que depuis le milieu des années 70 où on utilise la technologie OGM, eh bien c'est effectivement dans le domaine de la recherche fondamentale qu'on l'a utilisée. Et je dirais encore le premier domaine aujourd'hui de par l'intensité de l'activité d'utilisation de la technologie OGM. Quand on fait de la biologie, de la recherche fondamentale et qu'on fait de la biologie, de ce qu'on appelle de la biologie moléculaire, bah, on fait quasiment des OGM toutes les semaines, quoi, en grosso modo. Alors, la recherche fondamentale, c'est quoi? C'est comprendre comment ça marche. D'accord? Alors, en biologie, la recherche fondamentale, c'est décortiquer les processus biologiques, c'est-à-dire identifier les ouvriers qui travaillent sur les différentes chaînes de montage et de démontage de nos usines. Et pour identifier les ouvriers, c'est les protéines, bien, on est amené, à un moment ou à un autre, à identifier les gènes qui détiennent le secret de fabrication de ces protéines. Donc, en fait, on a deux grandes démarches en recherche fondamentale en biologie moléculaire. La première, c'est on a identifié un gène, peu importe comment, que ce soit par une méthode expérimentale ou par informatique, mais on ne sait pas à quoi il sert, c'est-à-dire, en grosso modo, on ne sait pas quel est le secret de fabrication qu'il détient, quel est là ou quelles sont les protéines qu'il permet de fabriquer. Et quel est le rôle ou quels sont les rôles de ces protéines dans l'usine? Sur quelle chaîne de montage et de démontage interviennent-elles? Et donc, on a un gène et on voudrait bien savoir quelle est la fonction. Inversement, parfois on a une fonction et puis on voudrait savoir si toutefois il y a un gène derrière, parce qu'il y a des fonctions où il peut très bien ne pas y avoir de gène dans l'absolu derrière la fonction, mais on peut se dire, ben voilà, quel est le gène qui détient le secret de fabrication de une ou de plusieurs protéines qui assure cette fonction? Alors quand je dis que c'est une fonction, c'est plutôt une perte de fonction, parce que quand tout va bien, on s'en rend pas compte. C'est quand il y a quelque chose qui va plus, on dit oh là là, il y avait quelque chose qui marchait bien avant et qui va plus. Toujours comme ça, hein, c'est quand on perd quelque chose de cher qu'on se rend compte à quel point c'était cher. Eh bien, on a perdu une fonction et on se dit quel est le gène qui a été abîmé. On a mis un A à la place d'un G, un C à la place d'un T. Du coup, les perles ne sont plus enfilées dans le bon ordre. Du coup, l'ouvrier n'arrive plus à faire son boulot. Et donc, il y a une chaîne de montage qui se fait plus. Et à ce moment-là, on va rechercher quel est ce gène qui, lorsqu'il est abîmé, fait que la fonction a disparu. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, non pas à travers les deux approches parce que ce serait trop long et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour ce soir, mais à travers la première par exemple, j'ai un gène et je veux connaître sa fonction ou avoir une idée de sa fonction, pourquoi en biologie moléculaire, dans les laboratoires, on passe par des OGM. Alors, on va partir d'un lapin. Je ne travaille pas sur le lapin, mais c'est le seul animal que j'avais dans mon logiciel. Donc, voilà. Alors, ouais, normalement il est bien gris ici, là il est... Enfin, dans les lapins de laboratoire, c'est des lapins blancs, après tout. Bon, on le voit pas bien, là, mais bon. Si, bon, vous le voyez, d'accord. Alors, on va extraire l'ADN du lapin. Alors, pour extraire l'ADN du lapin, il n'y a pas besoin de tuer le lapin. Il suffit de prendre une petite goutte de sang, ou du sperme, si c'est un mâle, parce que c'est particulièrement facile de purifier l'ADN à partir des liquides physiologiques, comme le sang et le sperme. Et puis, on va identifier, je ne sais pas combien il y a de chromosomes chez le lapin, peu importe, on va identifier un gène, peu importe comment. On a identifié un gène et on ne sait pas à quoi il sert. Et on voudrait bien savoir. Alors, la démarche, elle est la suivante. On peut en penser ce qu'on veut de cette approche, Je vous dis ce qui se fait en biologie moléculaire. L'approche, c'est de dire, moi, par exemple, j'y connais rien en mécanique automobile. Eh bien, j'ouvre un moteur, je vois de la porcelaine blanche. On me dit que ça s'appelle des bougies. Ça me fait une belle jambe, je sais pas à quoi ça sert, les bougies. Alors, si je me renseigne un petit peu, déjà, il y a des gens qui vont me dire que ça se dévisse, mais moi, je sais même pas que ça se dévisse. Puis, je vais pas me renseigner. Donc, je voudrais bien savoir comment ça marche. Ben, il y a une solution qui peut paraître bourrin, mais qui est celle qu'on utilise. On prend un marteau, on casse les bougies, on constate que la bagnole démarre plus, on déduit que les bougies sont impliquées dans l'allumage. Eh bien, en fait, on a exactement la même démarche. On a un gène, on ne sait pas à quoi il sert. On va casser le gène, on va l'inactiver, et on va refaire une bestiole avec la version inactive du gène, et on va comparer à la bestiole de départ, et on va regarder quelle est la différence. Si la bestiole n'entend plus, on va dire que c'est impliqué dans l'audition. Si elle ne voit plus, on va dire que c'est impliqué dans la vision. Bon, c'est une approche qui est critiquable, parce qu'avec cette approche-là, on ne sait jamais si c'est un effet direct ou indirect. On arrive souvent à des conclusions du style « on marche sur la queue d'un chien, le chien aboie, on en conclut que le chien aboie avec la queue ». Et oui, c'est très critiquable, mais n'empêche que c'est la démarche qu'on utilise, d'accord? Oui, parce que c'est ça le problème, est-ce que c'est direct ou indirect? Vous allez me dire, il suffit d'enlever la queue du chien et voir s'il aboie encore, oui, effectivement, Donc, alors, pour faire ça, on va devoir isoler le gène à partir du gène qui nous intéresse. Alors pour ça, on a dans notre boîte à outils de biologiste moléculaire, on a des petites enzymes, des protéines, des enzymes, qui ont un rôle naturel dans la nature, mais qu'on a détourné de leur fonction naturelle pour en faire des outils à notre service, et qui sont capables d'aller couper à des endroits précis. Alors, l'informatique nous dit, quand vous avez telle séquence, ça coupe à tel endroit, etc. Donc on va prendre les bonnes... C'est comme si vous aviez un jeu de clés à pipe ou de clés à molette, et puis vous prenez celle qui correspond au bon diamètre du boulon, quoi. Bon, ben voilà, on va prendre l'enzyme qui coupe à gauche, l'enzyme qui coupe à droite, et on va sortir notre gène. Ok. Et ce gène, on va l'inactiver. Pour l'inactiver, ça se fait in vitro dans un tube à essai. Mais alors comment on fait pour inactiver un gène? En fait, bon, pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on rajoute des lettres en plein milieu. Vous rajoutez des A, des G, des C, des T, donc comme si vous rajoutiez, je sais pas moi, la recette de la tarte au poireau au milieu d'un texte de Baudelaire, vous perdez la poésie, quoi. Ben, c'est pareil. Là, vous rajoutez des lettres au milieu du gène. Du coup, le gène, eh ben, il a perdu son message. Hein. Donc l'ouvrier dont il tenait le secret de fabrication ne va plus être le bon, etc., etc. Alors le problème, c'est que pour faire ça, il nous en faut des grosses quantités de notre gène. Et pour en avoir des grosses quantités, à chaque étape de la manipulation, il nous en faut des grosses quantités. La solution qui est utilisée, c'est de mettre le gène dans une bactérie. Alors c'est une bactérie gentille, hein, une bactérie qu'on a dans l'intestin, qui vit avec nous. On en a besoin, d'ailleurs, quand elle n'est pas là, on visite les toilettes plus souvent qu'à notre tour. Enfin, elle ne sert pas qu'à ça, d'ailleurs, mais on en a besoin de cette bactérie. Elle est gentille, elle a certaines limites quand même. Des fois, chez Chantegris, à Leclerc, c'est pas si gentil que ça, mais en général, elle est gentille. Donc, on va mettre le gène de lapin dans la bactérie. Pourquoi? Parce que les bactéries se multiplient toutes les demi-heures. Si on les met à 37 degrés, qui est la température de notre intestin, avec tout ce qu'il leur faut pour se multiplier, du sucre, de l'azote, etc. Alors, mettre un gène de lapin ou d'autres choses, d'ailleurs, dans une bactérie, ça prend aller 2 heures à tout casser. Hein. Alors, pareil, on n'y va pas de main morte, hein. Choc électrique, boum, et hop, le gène rentre dedans. Alors, on va faire ça en milieu d'après-midi, mettons vers 4 heures l'après-midi. Donc, à 6 heures, c'est terminé. Et puis, avant de quitter le boulot, à 7 heures du soir, on va récupérer quelques bactéries qui ont reçu le gène de lapin, ou qu'on suppose avoir reçu le gène de lapin, et on va les inoculer dans un petit tube de 3 millilitres. Alors, ça se voit pas, hein, ce qu'on fait, c'est, je sais pas, mettons que vous mettiez 1000 bactéries dans votre tube, ça se voit pas 1000 bactéries dans un tube de 3 millilitres, hein. D'ailleurs, les étudiants, ça les gêne beaucoup au début de pas voir ce qu'ils font, ils ont tendance à y aller à la truelle, d'ailleurs, hein. Mais, en fait, non, on voit pas ce qu'on fait. Simplement, si vous quittez le boulot à 7 heures du soir avec 1000 bactéries dans votre tube, et que vous mettez votre tube à 37 degrés, comme les bactéries se multiplient toutes les demi-heures, à 7h30, il y en a 2000. Et à 8h, il y en a 4000. À 8h30, il y en a 8000. Et à 4h du matin, quand il y en a 1 million, à 8h30, vous en avez 2 millions, puis 4 millions, puis 8 millions, etc., etc. Et du coup, quand vous revenez le lendemain matin, vous en avez un gros culot comme ça au fond du tube. Et comme toutes les bactéries se sont multipliées à partir des bactéries de départ qui avaient le gène de lapin, ben, elles ont toutes le gène de lapin. Et du coup, vous avez une grosse quantité de gène de lapin. Alors, le lendemain matin, ben, il faut éclater les bactéries pour récupérer le gène de lapin, qu'on est capable de séparer des gènes naturels de la bactérie, peu importe comment. Et on va donc avoir une grosse quantité de gène de lapin qu'on va pouvoir manipuler pour l'inactiver et on va le réintroduire dans la bestiole. Alors, quand je dis le réintroduire, c'est un abus de langage parce qu'en fait, c'est une nouvelle bestiole que l'on fabrique avec la version inactive du gène. Hein, c'est-à-dire que bon, ça se fait relativement bien sur les microbes comme ceux sur lesquels je travaille. Sur une bestiole comme le lapin, il faut le faire au niveau de l'embryon, au niveau du spermatozoïde ou de l'ovule, pour que ensuite toutes les cellules qui vont être générées et qui vont donner un lapin nouveau, eh bien, aient la version inactive du gène. Et à ce moment-là, on va avoir un lapin bien dont le gène aura été inactivé, et on va comparer le comportement de ce lapin au lapin de départ. Je vous disais, s'il voit plus, ben, c'est la vision, s'il entend plus, c'est l'audition, s'il se met à boiter, c'est la fonction musculaire, etc., etc. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça. Des fois, on inactive un gène, puis il se passe rien. Il faut en inactiver 2, 3, 4, 5 pour voir quelque chose. Et puis, parfois, au contraire, vous inactivez un gène, et le lapin, il voit plus, il n'entend plus, puis il boite. Alors, c'est pas simple non plus, mais c'est la démarche, d'accord? Voilà, alors, vous voyez que là, on a fait un OGM, puisqu'on a mis un gène de lapin dans la bactérie, dans mon exemple, et puis ici aussi, on a fait un OGM. Et oui, on n'a pas mis de gène étranger, bien que, souvent on en met, ce qu'on appelle un gène marqueur, j'en parlerai plus tard. Mais, même si on n'a pas mis d'autres gènes, on a bien fait un OGM, puisqu'on a inactivé un gène du lapin de façon non naturelle, on a modifié les caractéristiques génétiques initiales du lapin de façon non naturelle. Et donc, on a fait un OGM, et ça fait partie des organismes qu'on déclare comme OGM, bien sûr, dans les laboratoires, en espace confiné. Alors, vous voyez que ça, bon, c'est ce qu'on fait, moi j'en fais, hein, recherche fondamentale, il n'y a pas une semaine où on ne met pas un gène dans une bactérie. C'est pas pour ressentir que c'est bien. Il faut se poser des questions, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. D'ailleurs, moi je m'en pose tout le temps, des questions là-dessus. Et sur l'approche, sur la qualité de l'approche. Est-ce que c'est vraiment l'approche la plus fine et la plus intelligente? Ça, j'en suis pas certain. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Toujours pareil, les alternatives, mais avec les OGM agricoles, on aura beaucoup l'occasion d'en parler, des alternatives. Et puis, bon, ben, par exemple, les gens qui travaillent avec les animaux, ils peuvent se poser des questions aussi d'ordre éthique. Du style, jusqu'où a-t-on le droit d'utiliser l'animal au service de l'homme? Que ce soit pour apporter des connaissances, que ce soit pour servir de modèle à l'étude de maladies humaines, ou encore pour servir d'outil de distraction dans une arène avec un boucher habillé en paillettes. Hein, je veux dire, ça fait partie des questions qu'on a le droit de se poser. Alors, le deuxième domaine d'utilisation et d'application des OGM, alors je suis pas exhaustif, hein, le but c'est d'illustrer simplement, hein, mais de savoir que on fait autre chose avec les OGM que des plantes. C'est important, vous allez voir, dans le débat c'est très important. Même si c'est pas de ça qu'on discute essentiellement. Parce que, mine de rien, c'est quand même toujours ça qui ressort. Et là, j'attaque le domaine médical. Et vous savez qu'avec les OGM dans l'agriculture, de plus en plus, on nous dit « Ah oui, mais on peut faire des médicaments avec. » Regardez ce que fait Méristem en Auvergne avec ce maïs qui produit la lipase gastrique de chien pour soulager les enfants atteints de mucoviscidose. Alors pour ça, c'est important de savoir que quand Méristem nous dit « Mais c'est révolutionnaire, les OGM, on peut faire des médicaments avec. » J'étais rapporteur avec Gilles-Éric Serralini auprès du Conseil régional d'Auvergne sur la plante médicaments face à Méristem Therapeutics. Ils disaient, c'est révolutionnaire. Les pauvres élus étaient drôlement emmerdés parce que au Conseil régional d'Auvergne, ils avaient pris une motion de principe anti-OGM sur la région Auvergne. Ils se sont dit, si on accepte le maïs médicament de Méristem, on viole notre motion. Mais si on la refuse, on passe pour des élus qu'on n'a rien à foutre des gamins atteints de mucoviscidose. Et quand on leur a expliqué que ça n'avait rien de révolutionnaire parce que ça faisait 30 ans qu'on faisait ça en laboratoire, évidemment, on a senti les élus qui étaient tout d'un coup beaucoup plus détendus. Et donc, comme quoi, évidemment, c'est important de savoir ce qui se fait dans les autres domaines avec les OGM. Alors, je pourrais pas être exhaustif parce que dans le domaine médical, il y a énormément de facettes d'utilisation des OGM. Comment on fait des animaux transgéniques pour servir de modèle à des maladies humaines, etc., à l'étude de maladies humaines. Moi, je vais vous donner un seul exemple, qui est un exemple qui nous concerne dans la vie de tous les jours, puisque c'est la production de protéines d'intérêt pharmaceutique, de protéines médicaments. Alors, ce sont des protéines qui ont un rôle bien précis, naturellement, mais que l'on peut utiliser à des fins médicamenteuses. Et je vais vous donner l'exemple de l'insuline. Alors, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas, et qui est sécrétée par le pancréas lorsque le taux de sucre dans le sang augmente. Parce que le but de cette hormone, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang, et notamment de l'abaisser lorsqu'il devient trop élevé. C'est-à-dire, en fait, là, on a tous mangé, je pense, donc on a un taux de sucre dans le sang qui a augmenté, donc le pancréas, là, sans qu'on s'en doute, il est en train de travailler, il a sécrété de l'insuline, l'insuline est passée dans le sang. Le sucre, on en a besoin, c'est le carburant de nos cellules. Quand le cerveau en manque, d'ailleurs, on a des petits vertiges, donc on en a vraiment besoin. C'est la source d'énergie. Et une des sources d'énergie. Et en fait, ce sucre, il est apporté, comme le reste, par l'alimentation. Il va passer dans le sang, et le sang va le distribuer partout dans le corps pour l'emmener aux différentes cellules qu'en ont besoin. Le problème, c'est que le sucre, il passe pas spontanément du sang dans les cellules. Il lui faut une hormone qui va l'aider à le faire. Cette hormone, c'est l'insuline. Mais il y a des gens qui en fabriquent pas assez d'insuline ou qui fabriquent une insuline anormale. Et à ce moment-là, ils ont un taux de sucre dans le sang qui reste anormalement élevé pendant des périodes beaucoup trop longues, avec les conséquences que vous savez, c'est le diabète insulino-dépendant. Alors comment faisait-on autrefois, je dis autrefois parce que vous allez voir qu'on fait autrement aujourd'hui, pour soigner les gens atteints de diabète insulino-dépendant? On ne pouvait pas dire, tiens, monsieur est en bonne santé, je vais lui prendre son insuline pour le donner à son voisin qui est diabétique. On ne pouvait pas faire ça, pourquoi? Parce que l'insuline, comme la plupart des hormones, on les fabrique juste dans les quantités dont on a besoin. Donc prendre un bien portant pour donner à un mal portant, c'est déshabiller Pierre pour habiller Jacques, donc ça ne résout rien. Et quand on ne peut pas aller chercher chez l'homme pour l'homme, ben on va chercher chez l'animal pour l'homme. Et quand on va chercher chez l'animal, en général, on a le choix entre le cochon et le lapin, parce que n'en déplaise, c'est les deux animaux qui nous ressemblent le plus. Enfin, en tout cas, du point de vue du fonctionnement biologique. Et donc, on va chercher, dans le cas de l'insuline, on est allé chercher chez le cochon. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a très peu de maladies transmises du cochon à l'homme. Et ensuite, et surtout, parce que quand on compare l'insuline de l'homme à l'insuline du cochon, on s'aperçoit, donc le collier de perles qui correspond à l'insuline du cochon, au collier de perles qui correspond à l'insuline d'homme, il n'y a qu'une perle de différence, une bleue à la place d'une rouge, par exemple. Du coup, les chercheurs à l'époque se sont dit, c'est bien le diable si ça marche pas. Effectivement, ça marche. Prenez l'insuline de cochon, vous l'injectez à un diabétique et vous régulez son taux de sucre. Mais ça causait deux problèmes. Premier problème, un problème d'approvisionnement. Vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés occidentales et vu le nombre de personnes qu'il y a ce soir, je peux affirmer sans me tromper qu'il y a au moins un diabétique. En tout cas, vous en connaissez tous, statistiquement parlant, hein. Vous en connaissez tous, et vu le nombre de diabétiques croissants qu'il y a dans nos sociétés occidentales, ça causait effectivement un problème d'approvisionnement. Vous imaginez le nombre de porcs qu'il fallait zigouiller pour satisfaire la demande, sachant qu'à partir d'un porc, on en obtient très peu hein, d'insuline, parce que lui aussi, il n'en fabrique pas beaucoup. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui était le principal problème, c'est que, à cause de cette petite perle de différence, la bleue à la place de la rouge, la petite différence entre l'insuline de cochon et l'insuline d'homme, différence que l'on croyait anodine initialement, eh bien, un certain nombre de personnes qui s'injectaient de l'insuline tous les jours, voire trois fois par jour, l'insuline de cochon, finissaient par développer, je vais pas dire, le terme exact, c'est pas une allergie, dans notre jargon, on appelle ça une hypersensibilité, c'est-à-dire une sorte d'intolérance à l'insuline de porc. Ils ne pouvaient plus se soigner avec l'insuline de porc, ils la supportaient plus. Alors, ça a concerné très très peu de patients. Mais c'était dramatique pour eux, puisque vous savez qu'un diabète qui n'est pas soigné, ben, ça conduit à des amputations, etc. etc. Donc, ils n'avaient pas d'alternative. Et la solution, ou en tout cas une des solutions, parce qu'il se pose toujours le problème des alternatives, est-ce qu'on a vraiment tout exploré, mais une solution est venue de la transgénèse. En tout cas, c'est un fait, aujourd'hui, et donc il faut le savoir, quel que soit là encore l'avis de chacun sur la question. On est parti d'un homme en bonne santé, et on a, il y a une trentaine d'années de ça, donc on a extrait son ADN, on n'a encore pas besoin de le tuer, hein, on prend une petite goutte de sang et on a l'ADN. Et puis sur l'un de nos 23 chromosomes, on a identifié, je ne sais plus lequel, peu importe, le gène de l'insuline. Le gène qui détient le secret de fabrication de cette hormone qu'est l'insuline humaine. Alors là, on est allé chercher ce gène avec nos petites enzymes, on a coupé en amont, on a coupé en aval, toujours pareil. On a sorti ce gène, et quand ce gène est traduit en protéine, eh bien on obtient l'insuline que j'ai symbolisée ici sous la forme d'un triangle rouge. Eh bien qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ce gène dans la bactérie, toujours notre bactérie de l'intestin. D'accord ? On a mis le gène dedans, sauf que cette fois-ci, au lieu de cultiver la bactérie dans un petit tube de 3 millilitres, on la cultive dans des fermenteurs de 200 litres, à une échelle industrielle. Alors bien sûr, c'est toujours un espace confiné. Mais donc là, évidemment, ce qu'on obtient, puis en plus on approvisionne en sucre, en azote en permanence, de façon à ce que la bactérie manque de rien, du coup elle se multiplie à foison, et donc ce que vous obtenez là, c'est pas un petit culot de bactéries comme ça, c'est des kilos et des kilos et des kilos de bactéries qui, toutes, parce que le langage génétique est universel, prennent le gène de l'insuline à leur propre compte, le décodent et fabriquent l'insuline humaine à foison. Et donc à ce moment-là, on peut éclater les bactéries, purifier l'insuline, la conditionner sous forme de médicaments et l'injecter à quelqu'un qui est pas bien parce qu'il est diabétique et insulino-dépendant. Alors vous voyez que on a fait des OGM ici puisqu'on a mis un gène humain dans une bactérie. D'accord, le gène de l'insuline. Alors il faut savoir, s'il y a des diabétiques, et je répète, il y en a certainement statistiquement, mais vous en connaissez tous, que quand vous allez chercher votre insuline en pharmacie, depuis 1981, elle est faite comme ça. Alors je suis sûr que beaucoup de gens la prennent ce soir. Donc merci les faucheurs, puisque grâce à eux, on ne saurait pas ça. Et oui, je fais un peu de la provocation, mais c'est la vérité. Ça prouve à quel point il y a une carence de communication scientifique, enfin de communication tout court, entre les scientifiques et les citoyens, et le reste de la société civile. Tout simplement parce que, moi, il me semble normal, quand on est adulte, qu'on puisse choisir sa thérapie. Et ça me semblerait normal, sans être biologiste, que les citoyens soient informés de la manière dont a été produit le médicament qu'ils consomment, que ce soit par synthèse chimique, par purification à partir d'une plante, ou par génie génétique, comme c'est là. Or, on va me dire, mais si vous êtes informé, effectivement, sur la boîte, c'est marqué protéines recombinantes, ça fait une belle jambe quand on ne dit pas ce que ça veut dire. Il faut pas, en général, il y a très peu de médecins et de pharmaciens qui le disent. Donc, ça veut dire que les gens ne savent pas. Et ça prouve à quel point il y a une carence scientifique. Ça, c'est pas normal que vous l'appreniez là ce soir à l'occasion d'un débat sur les OGM agricoles, par exemple. Donc, vous voyez que, alors ça, évidemment, ça fait 25 ans qu'on le fait dans le cadre de l'insuline, et on a un suivi. Et on peut dire que dans le cadre de l'insuline, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je ne vais pas dire pour autant que ça, c'est forcément formidable et sans risque, parce que le scientifique que je suis se veut d'être prudent, et je reproche suffisamment à mes collègues de ne pas l'être suffisamment, notamment sur les OGM, pour me permettre de dire que ça, c'est formidable et sans risque. Dans le cas de l'insuline, ça a l'air de plutôt bien se passer, c'est du cas par cas. C'est pas parce que ça marche avec une protéine que ça marchera avec une autre. Et il y a un cas qui vient de se produire en Angleterre où ça a été plutôt catastrophique. Donc, c'est du cas par cas. Ça a été plutôt une réussite dans ce cas-là. Mais si on peut dire que ça a été une réussite, c'est parce qu'on a un suivi. Parce que l'avantage, si je puis dire, avec un médicament, c'est qu'il y a une ordonnance. Donc on sait exactement qui en consomme et qui en consomme pas. Et ceux qui en consomment, on sait à quelle dose et à quelle fréquence. Il est donc facile, s'il apparaît un effet secondaire, bon l'effet secondaire c'est le propre de tous les médicaments, mais un effet secondaire grave, de faire la corrélation entre la consommation du médicament et l'apparition de cet effet secondaire. Maintenant, quand on entend des scientifiques à propos des OGM, style Monsieur Oudbin de l'INRA, qui nous dit... À propos des OGM, vous voyez que c'est pas dangereux. Les OGM agricoles, là, j'entends, hein. Vous voyez que c'est pas dangereux. Les Américains, ça fait 10 ans qu'ils en consomment, il n'est jamais rien arrivé. Mais comment peut-il dire une chose pareille? Il n'y a pas d'ordonnance, là, pour aller chercher la boîte de maïs chez Auchan ou Leclerc. Il n'y a pas d'ordonnance. On ne sait pas qui en consomme et qui en consomme pas, d'autant plus qu'il n'y a pas de séparation des filières, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de séparation des filières agricoles dans les pays qui produisent des OGM. Donc comment pourrait-on savoir qui consomme les OGM et qui en consomme pas? Et par conséquent, comment pourrait-on faire la corrélation de cause à effet entre la consommation d'un OGM et l'apparition d'un éventuel problème sanitaire? Et c'est un mec qui appartient à l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui dit ça. Alors soit il le fait exprès, soit il ne sait pas ce que c'est qu'un protocole d'études toxicologiques, ce qui dans les deux cas est très grave puisqu'il fait partie de l'AFSA. Donc c'est vraiment, en tout cas ça ne met pas en confiance, si je puis dire. Hein ? J'avais déjà pas confiance, mais moi quand j'entends des choses comme ça, franchement, de la part de gens qui sont nos experts, qui vont conseiller les instances politiques, les instances gouvernementales sur le fait qu'on puisse utiliser ou puisse consommer ou pas, c'est vraiment pas rassurant d'entendre ces choses-là. Alors, et cette même personne, quand on sait par exemple le mal qu'ont les gens qui ont travaillé 30 ans dans un bâtiment amianté à faire reconnaître leur cancer du poumon comme maladie professionnelle, on imagine le mal qu'aurait quelqu'un qui serait victime d'un problème sanitaire lié à la consommation d'OGM à prouver que c'est lié à la consommation d'OGM. Franchement. Donc là encore, c'est vraiment pas tirer les leçons du passé. Et puis, cette même personne et bien d'autres, Bin et d'autres, nous disent « Mais vous voyez, les OGM, c'est pas dangereux. Les gens en consomment sans le savoir en pharmacie depuis le début des années 80, il n'est jamais rien arrivé. Alors ça, c'est pareil, c'est un énorme mensonge. D'abord parce que qu'il n'est jamais rien arrivé, ça j'en suis pas si sûr que ça. Il y a quand même quelques exemples où on a des doutes. Et deuxièmement, ce n'est pas les OGM que vous allez chercher en pharmacie. Ce que vous allez chercher en pharmacie, ce n'est pas la bactérie dans laquelle on a mis le gène de l'insuline. Vous allez chercher l'insuline qui a été fabriquée par la bactérie OGM, certes. Mais ce n'est pas l'OGM que vous mangez. Là encore, je ne veux pas dire par là que c'est sans risque forcément. Mais on n'a pas le droit de faire l'amalgame. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum vu l'aspect technique pour comprendre cette subtilité entre l'OGM et la protéine fabriquée par l'OGM. Ce que vous allez chercher en pharmacie, c'est l'insuline et non pas la bactérie qui produit l'insuline. Donc voilà un petit peu le genre d'abus de langage très intentionnel de la part de certains qui ont pour but de rouler les gens dans la farine alors que le rôle d'un scientifique, ce serait de les éclairer et de les informer. C'est quelque chose qui m'énerve profondément. Les OGM dans l'agroalimentaire. Donc j'y viens à ce troisième et dernier volet, mais qui n'est pas des moindres. Je suis bavard, je vous préviens, vous l'avez remarqué déjà. Mais je vais parler donc des OGM dans l'agroalimentaire. Alors les gens qui me connaissent bien me diraient « Christian, je comprends pas. Toi qui te veux si pointilleux, t'as présenté depuis le début de ta conférence trois intercalaires bleus. Le premier, c'était OGM et recherche fondamentale. Le deuxième, c'était OGM et médecine. Pourquoi t'as pas mis OGM et agroalimentaire? Pourquoi tu mets dans? Tu n'es pas pointu, tu n'es pas rigoureux. » Évidemment, vous comprenez bien que si j'insiste autant, c'est que j'y tiens à mon dent. Et je réponds, c'est parce que je suis pointilleux que je mets dans. Pourquoi? Parce que tous les OGM dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et ceux dont je vais vous parler maintenant, il y a une énorme différence. Deux énormes différences. La première, c'est que ces OGM sont destinés à être disséminés dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire, alors que les premiers étaient en espace confiné. Ça, c'est une première différence. Mais il y en a une deuxième qui justifie mon dent. C'est que tous les OGM dont j'ai parlé jusqu'à présent, les OGM utilisés en espace confiné, la recherche fondamentale, en domaine médical, etc. Ce sont les OGM utilisés comme des outils, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Dans le cas de la recherche fondamentale, l'OGM est une éprouvette biologique en quelque sorte, permet d'essayer de comprendre la fonction des gènes et des protéines. Dans le cas de la recherche médicale, avec l'exemple que je vous ai donné, c'est une usine à fabriquer du médicament. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'OGM en tant que tel. Quand on fait une bactérie qui produit de l'insuline, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est l'insuline. Et d'ailleurs, pour purifier l'insuline, on va la tuer, la bactérie, on va l'éclater. Donc ce n'est pas l'OGM en tant que tel qui nous intéresse, c'est juste un moyen. En recherche fondamentale, notre éprouvette biologique, quand on a fini l'expérience, on s'en débarrasse. Hein? Ou alors on la congèle à moins 80, au cas où on en aurait besoin plus tard, pour refaire une expérience, pour pas tout refaire depuis le début. Mais c'est tout. Mais c'est pas l'OGM en tant que tel, c'est juste l'outil, l'information qui va nous apporter. Par contre, dans le domaine agroalimentaire, quand on fait une plante qui résiste à un insecte, parce qu'on lui a fait exprimer un insecticide, cette plante, on va la planter comme une plante conventionnelle. On va la cultiver comme une plante conventionnelle. On va la récolter comme une plante conventionnelle. On va la manger ou l'animal va la manger comme une plante conventionnelle. Donc ce n'est plus un outil, c'est un organisme à part entière. Et ça, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change? Mais à partir du moment où on utilise un OGM non plus comme un outil, mais comme un organisme à part entière, ça implique de se poser un certain nombre de questions nouvelles. Notamment de savoir, est-ce qu'on est en mesure de maîtriser les conséquences de la modification génétique sur l'ensemble du métabolisme de la plante et ses éventuelles répercussions dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire sur l'animal qui mange la plante et sur l'homme qui mange l'animal qui a mangé la plante? Et est-on en mesure de maîtriser les conséquences de la modification génétique sur l'interaction de la plante avec son environnement? Quand on fait une bactérie qui produit de l'insuline, on n'en a rien à foutre si la bactérie elle est pas bien par ailleurs, pourvu qu'elle nous fasse de l'insuline et qu'elle la fasse bien. Par contre, quand on fait un maïs qui produit de l'insecticide pour résister à un papillon ravageur comme la pyrale, c'est pas le tout que le maïs produise l'insecticide. Ça, c'est facile à faire. Effectivement, le maïs le produit, l'insecticide. Mais la question qui se pose, c'est les questions qui se posent. Quelles sont les conséquences de la production permanente d'insecticides par la plante sur le métabolisme de la plante, sur ses répercussions sur la chaîne alimentaire? Que devient cet insecticide dans la chaîne alimentaire, sachant que les pesticides s'accumulent notamment dans le lait des vaches qui mangent ces plantes, arrosées de pesticides, ou dans les œufs des volailles. Donc que deviennent ces pesticides produits en permanence par la plante et qui vont donc s'accumuler dans les cellules de la plante? Que deviennent ces pesticides au niveau de l'environnement, sachant qu'une plante qui produit une protéine en grosse quantité, ça passe dans les racines c'est des passoires, donc ça passe dans le sol. Quel est l'effet de la toxine sur les micro-organismes du sol dont on n'en connaît que 5%? Quel est l'effet sur les insectes utiles comme les coccinelles des abeilles, etc., etc. Voilà les questions nouvelles. Et voilà pourquoi on n'a pas le droit d'amalgamer quelle que soit la position de chacun sur les OGM. Parce que les questions posées ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, j'espère donc vous avoir convaincu que, en tout cas, ça génère bien sûr des nouvelles questions, des questions liées au devenir de l'OGM. Est-ce que c'est un outil? ou est-ce que c'est un organisme à part entière? Est-ce qu'on va l'utiliser comme organisme à part entière? Alors, je vais maintenant vous dire ce qui se fait dans l'agriculture. Alors, ce qui se fait puis ce qui se prépare, parce que c'est important aussi de savoir ce qui se prépare. Alors, et puis ensuite, j'aborderai les risques sanitaires et les risques environnementaux. Alors, 99%, je dirais même peut-être plus que 99%, mais au moins 99% des plantes agricoles transgéniques sont ce qu'on appelle des plantes à pesticides. Pesticide, c'est le terme générique pour dire insecticide et herbicide. Hein. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui m'écrivent, des scientifiques d'ailleurs, qui me disent « Vous avez dit ça dans le conférence, c'est pas vrai, il y a des plantes qui produisent pas des insecticides. » J'ai jamais dit qu'elles produisaient toutes des insecticides. Je dis simplement que 99% des plantes agricoles transgéniques sont des plantes à pesticides, c'est-à-dire susceptibles d'accumuler des pesticides dans leurs cellules. Accumuler des pesticides dans leurs cellules, soit parce qu'elles le produisent en permanence, c'est le cas des plantes qui produisent un insecticide en permanence pour résister à des insectes, comme le maïs BT, par exemple, les maïs BT, soit des plantes qui accumulent un pesticide parce qu'elles l'absorbent par leurs racines ou par leurs feuilles. Ce sont les plantes qu'on a rendues tolérantes à un herbicide, comme les plantes, le soja au Roundup, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir en présence de cet herbicide, elles survivent et donc elles peuvent l'accumuler dans leurs cellules parce qu'elles l'absorbent. Donc ces plantes réunies, les plantes qui produisent un insecticide ou qui sont rendues tolérantes à un herbicide, et maintenant on fait des plantes qui font les deux, même qui sont capables de produire deux insecticides et qui tolèrent deux herbicides. Et donc ces plantes, bien sûr, elles vont pouvoir accumuler des pesticides dans leurs cellules. Alors premier exemple, c'est les plantes qui produisent un insecticide dans leurs cellules. C'est le cas des maïs BT. Je vais prendre l'exemple du maïs BT qui résiste à la pyrale. Tous les maïs BT ne sont pas ciblés sur la pyrale. Hein. Il y en a un là, par exemple, qui vient d'être autorisé en Europe, qui lui résiste à la chrysomèle. Vous savez, cet insecte qui est arrivé autour des aéroports militaires en Europe. Puis il y a l'antidote qui est arrivé à Bruxelles en même temps. Voilà. Donc, le maïs Monsanto 863. C'est ça, hein. C'est le MON 863. Donc, je vais vous prendre l'exemple du maïs qui résiste à la pyrale. La pyrale, c'est un papillon crépusculaire dont la chenille fait des dégâts dans la tige du maïs. Vous avez ici la tige du maïs avec le trou de la chenille et en haut une coupe longitudinale de la tige qui vous montre les dégâts à l'intérieur et donc ça peut descendre jusque dans l'épi. Il se trouve qu'il y a une bactérie du sol qui s'appelle Bacillus thuringiensis. Si je vous donne son nom, c'est pas pour faire savant, c'est pour vous montrer que les initiales de la bactérie, c'est BT. Et cette bactérie qui est dans le sol, qui est l'un des multiples microbes du sol, est une bactérie qui a des gènes à elle qui détiennent le secret de fabrication de protéines tueuses d'insectes, de protéines insecticides. Et notamment d'une protéine capable de tuer la pyrale. Eh bien, puisque le langage génétique est universel, les chercheurs se sont dit, on va prendre le gène de cette bactérie qui détient le secret de fabrication de cette toxine tueuse de pyrale, on va le mettre dans le maïs. Le maïs va alors prendre ce gène à son propre compte, le décoder et fabriquer lui-même la toxine. Et du coup, il va résister tout seul au papillon, ou à la chenille. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les maïs BT, c'est ce qui se fait. Hein, je vous dis ce qui se fait, et puis je vous dirai les conséquences dans un instant. Deuxième catégorie de plantes à pesticides, celle qu'on a rendue tolérante à un herbicide, c'est-à-dire capable d'absorber un herbicide sans mourir. Alors c'est le cas du soja au Roundup, mais il n'y a pas que du soja au Roundup, hein, tout comme il n'y a pas que du maïs BT. Il y a du coton BT, de la betterave BT, etc. Soja au Roundup, c'est pareil, il y a du colza au Roundup, il y a tout au Roundup. Hein. Donc le Roundup, c'est quoi? Jean-Pierre Berland en a parlé tout à l'heure. C'est un herbicide dit à large spectre. À large spectre, ça veut dire qu'il tue tout ce qui bouge, enfin en termes de plantes, il tue toutes les plantes. Il est très efficace. Si on peut parler comme ça, efficace en termes de tuer les plantes. Hein. Alors, son principe actif à ce Roundup, c'est le glyphosate. Et pourquoi il est extrêmement efficace en termes d'herbicide sur les plantes? Tout simplement parce que ce Roundup va agir sur un ouvrier particulier de l'usine cellulaire végétale, un ouvrier qu'on appelle l'EPSPS, mais peu importe, il faut bien lui donner un nom. Donc, une protéine, une enzyme qui travaille dans l'usine cellulaire végétale et qui a un travail particulier, cette enzyme, parce que elle permet de fabriquer des petites perles ou certaines petites perles. Donc les petites perles qui sont constitutives des protéines. Donc si vous empêchez cet ouvrier de travailler, il n'y a plus de perles. S'il n'y a plus de perles, on ne peut plus fabriquer les autres protéines. Et du coup, il n'y a plus d'ouvriers dans l'usine. L'usine ferme ses portes et la plante crève. Voilà pourquoi c'est efficace. Eh bien, il se trouve que voilà un petit peu l'ouvrier en question, le PSPS, que j'ai représenté sous la forme d'une boule rouge. Donc, cet ouvrier est impliqué dans la synthèse des protéines puisqu'il permet de fabriquer les petites perles constitutives des protéines. Il se trouve que quand le Roundup pénètre dans la plante, j'ai représenté ici le Roundup sous la forme d'une petite balle verte, eh bien, il aime beaucoup cette boule rouge. Il va se fixer dessus. Et en se fixant dessus, eh bien, il l'empêche de bosser. Et donc, du coup, il n'y a plus de synthèse de perles, donc plus de synthèse de protéines et la plante crève. Eh bien, il y a plusieurs formes de résistance au Roundup qui ont été obtenues par modification génétique. Il y en a une d'entre elles qui consiste à modifier le gène du soja, pas un gène étranger, le gène du soja, qui détient le secret de fabrication de la boule rouge, puisque la boule rouge est un ouvrier de l'usine cellulaire du soja. Donc le gène appartient au soja. Ce gène a été modifié, on a mis des A à la place des G, des C à la place des T. Du coup, les perles qui fabriquent cette boule rouge, puisque cette boule rouge elle-même est constituée de perles, ne sont plus enfilées dans le bon ordre, donc cette boule elle est légèrement déformée. Ça l'empêche pas de faire son boulot, mais ça l'empêche de fixer le Roundup. Et du coup, voilà, elle est un petit peu déformée, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais la petite boule verte, elle voudrait bien venir se fixer dessus, mais du fait de cette déformation, elle ne peut plus. Et du coup, la protéine peut continuer à bosser tranquille et la plante résiste. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais ce soja-là, ce n'est pas un OGM, puisqu'on n'a pas mis de gène étranger dedans. Mais on a modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales du soja. Un jour, dans un débat, quelqu'un de l'INRA m'a dit, ah, mais ça, c'est même pas un OGM. Alors, pour ça que je vous ai donné la définition académique des OGM. C'est un OGM. Et la conséquence n'est pas des moindres, puisque cette plante qui devrait crever en présence du Roundup, non seulement elle va vivre, mais elle va pouvoir accumuler du Roundup dans ses cellules. Et le Roundup, vous le savez, c'est inoffensif, tout le monde peut en boire, mais je vous le conseille pas. Alors, il y a les 1% qui restent. Les 1% qui restent, c'est important parce que c'est pas important en termes de quantité, mais c'est important de voir dans la démarche, dans la logique qui consiste à accepter les OGM par la population. Alors notamment, il y a des plantes parmi les 1%, bah c'est essentiellement celle-là d'ailleurs, ils ont des plantes qui sont sur le point d'être commercialisées et qui le sont déjà dans certains pays, et qui sont des plantes résistantes à des maladies virales. Vous savez qu'il existe des virus des plantes comme il existe des virus des animaux, hein, le virus de la mosaïque du chou-fleur, mosaïque du tabac, etc., etc. Eh bien, il y a des chercheurs de l'INRA, il y a une quinzaine d'années, qui avaient remarqué que si on prenait un gène du virus et qu'on le mettait dans la plante, sans qu'on sache pourquoi, je dis bien sans qu'on sache pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les mécanismes intimes qui régissent ce phénomène, mais c'est une observation, c'est une constatation. Quand on met ce gène, eh bien, le gène de virus dans la plante, le jour où le virus attaque, c'est-à-dire qu'il injecte son ADN à lui, eh bien, le fait qu'il y ait déjà un gène du virus dans la plante, ça lui plaît pas, il n'arrive pas à se multiplier, le virus. Du coup, la plante résiste, on appelle ça la vaccination génétique. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, tiens, on va faire des plantes transgéniques qui résistent au virus, puisqu'on leur aura mis un gène de virus dedans. Alors ça a déjà été fait avec le tabac, la courge et le poivron qui sont cultivés à grande échelle en Chine et aux États-Unis, même si ça reste fifrelinesque par rapport à l'ensemble des cultures OGM de la planète, hein, mais ça se fait quand même à grande échelle en ce qui concerne le poivron, la courge et le tabac. C'est à l'étude chez le colza, la tomate, la pomme de terre, le prunier, la vigne, également chez des fleurs, le pétunia, le géranium, et en particulier c'est à l'étude chez la vigne. Pourquoi ? Parce que toutes les vignes de la planète, pas seulement les vignes françaises, toutes les vignes de la planète sont victimes d'une maladie virale, ça s'appelle la maladie du cournoué. Le cournoué, c'est un virus qui est transporté dans le sol par un petit ver microscopique, un nématode. Et quand ce virus arrive au contact des racines du pied de vigne, eh bien, il peut pénétrer dans le pied de vigne par les racines. Et une vigne qui est atteinte du cournoué, c'est grosso modo, je sais plus, mais je crois que le pied de vigne perd 10 ans de durée de vie, quelque chose comme ça. Il y a une diminution du nombre de grappes, il y a une diminution du nombre de baies dans les grappes. Bref, c'est une chute de rendement de 80%. Et quand on connaît bien sûr l'impact économique du vin dans le monde, il y a une pression très très forte pour faire de la vigne transgénique qui résiste au cournoué. Et les premiers essais en plein champ ont eu lieu l'année dernière en Alsace à Colmar. Alors, il y a ensuite des maladies provoquées. Alors ça c'est à l'étude, ce n'est pas encore fait. Donc les 1% c'est quasiment que ça, les plantes résistantes à des maladies virales. Quasiment. Et ensuite, ce que je vais vous parler maintenant, c'est les promesses. Ou les choses qui sont à l'étude. Alors les choses qui sont à l'étude, par exemple, des plantes résistantes à des maladies provoquées par des champignons. Moi, je travaille sur un champignon microscopique du sol qui n'est pathogène ni pour l'homme ni pour les plantes, ce qui facilite d'ailleurs son utilisation en laboratoire. Mais j'ai des collègues dans le même institut qui travaillent sur des champignons pathogènes du riz, pathogènes de l'orge, pathogènes du colza. Et en fait, on connaît encore moins de choses que pour les virus sur les mécanismes de virulence. Ce que l'on connaît bien, par contre, c'est la manière dont le champignon pénètre dans la plante. Et notamment, il y a un exemple sur le colza qui est victime d'une maladie due à un champignon. Quand le colza perd ses pétales en fin de floraison, s'il y a de l'humidité dans l'air, ce qui est souvent le cas, les pétales en tombant viennent se coller à la tige ou se coller à la feuille. Et c'est la zone de contact entre le pétale et la tige ou le pétale et la feuille qui constitue la zone privilégiée d'entrée des spores du champignon. Voilà ce qu'on sait. On ne sait pas comment ça se passe après, mais voilà ce qu'on sait. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont dit qu'à cela ne tienne, on va faire du colza qui résiste aux champignons, on va faire du colza sans pétales. Vous voyez ? Comme si pour résoudre le problème des pellicules, on disait on va faire des hommes sans cheveux. Il y a peut-être d'autres alternatives. Le problème des alternatives. On fonce tête baissée dans le guidon sur une technologie avec les gros sabots et on se pose pas le problème des alternatives. D'accord. Donc, voilà, ça c'est les champignons. Ensuite, il y a ce que Jacques Testard appelle « si ma tante en avait ». C'est-à-dire les fameuses promesses qu'on nous fait depuis 15 ans. Parce que c'est très alléchant, ces promesses. Mais ça reste des promesses. C'est-à-dire qu'en fait, on voit rien venir, et pour cause d'ailleurs qu'on voit rien venir. Et il y a quelques études de faites par-ci par-là, mais on voit rien venir. C'est-à-dire des plantes qui seraient capables de pousser dans des milieux très arides. Donc des plantes qui seraient capables de résister au manque d'eau, ce qu'on appelle le stress hydrique. Hein. Des plantes qui seraient capables de pousser dans des milieux très salins, dans des milieux très humides au contraire, etc. etc. Alors évidemment, ça vient pas pour cause, parce que croire qu'on va arriver à faire une plante qui résiste au stress hydrique par la technologie OGM, c'est franchement marcher à côté de la plaque. Parce que le stress hydrique, ce sont des mécanismes tellement complexes qui font appel certainement à un nombre de gènes faramineux dont on ne connaît qu'un fifrelin. Croire que c'est parce qu'on va introduire un gène, deux gènes, trois gènes ou quatre gènes dans une plante qu'on va résoudre le problème, c'est franchement totalement illusoire. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de débattre notamment à l'émission de Calvi, là, c'est dans l'air, avec face à Oudbin d'ailleurs, et avec Daniel Evin. Alors Daniel Evin, on était du même bord. Daniel Evin, c'est un ancien de Monsanto qui aujourd'hui est agriculteur bio, comme quoi tout mène à tout. Il a quitté la secte et pour des raisons qu'il a eu l'occasion d'évoquer d'ailleurs sur France Inter à l'émission de Jean-Pierre Coff. Donc parce que tous les matins on leur faisait un brainstorming, comme on appelle ça, un bourrage de crâne en français, où on leur disait que fallait dire que lui travaillait sur le colza. On disait qu'il fallait dire que le pollen du colza dépassait pas 30 mètres. Et lui il en a eu marre de mentir et il a décidé de partir. Et comme son père partait à la retraite, il a repris sa ferme et il a dit c'est pas comme ça qu'on fait de l'agronomie et il a décidé de devenir agriculteur bio. Donc c'est formidable de voir que des gens peuvent se remettre en question après avoir travaillé plusieurs années dans une firme comme Monsanto, ça fait quand même de l'espoir. Alors, en tout cas, si on doit virer Monsanto de France, on peut recaser peut-être les employés, même sans leur donner un CPE. Bon. Oui, ce gars-là, qu'est-ce que je voulais dire ? Ce gars-là, il disait, mais attendez, moi j'ai travaillé quand j'étais chez Monsanto au Sénégal. Et les maïs qui résistent au stress hydrique, mais attendez, mais il y en a déjà. Il y en a déjà qui sont issus de la sélection massale, c'est-à-dire la sélection pratiquée par les paysans pendant des millénaires. Et quand on regarde le patrimoine des semences sur la planète, et là Jean-Pierre Berland sera certainement beaucoup mieux armé que moi pour en parler, eh bien, il est clair que tout ce qu'on prétend résoudre avec les OGM, ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a des alternatives. On a un patrimoine fantastique, parce qu'on oublie que on oublie toujours que ce ne sont pas les chercheurs, et en particulier les agronomes qui ont inventé l'agriculture, ce sont les paysans. Mais ça, on l'oublie aujourd'hui. On l'oublie, les paysans doivent être au service du chercheur agronome qui lui dit comment faut faire. Et puis, il y a les plantes à valeur nutritive modifiée, c'est-à-dire les fameuses plantes, vous savez, qui vous donneraient des meilleures vitamines, plus de vitamines, ou des graisses de meilleure qualité. Ça, c'est pour les consommateurs récalcitrants. Alors, il suffit de dire, bah, vous vous rendez compte, vous allez manger ça, vous allez maigrir. Et voilà. Alors, il y a un exemple dont vous avez déjà entendu parler, qui est le riz doré. Alors le riz doré, c'est quoi? C'est un riz transgénique qui est capable de faire de la vitamine A. La vitamine A, vous savez, on la fabrique à partir du carotène. Le carotène, c'est ce pigment qu'on trouve, comme son nom l'indique, de façon abondante dans la carotte, également dans la tomate, qui est responsable de la couleur jaune, orange et rouge, d'ailleurs, de ces végétaux. D'accord? Et il se trouve que le riz, dans sa partie comestible, n'a pas de carotène. Donc il ne peut pas faire de vitamine A. Mais par contre, on va trouver dans la partie comestible du riz, la molécule à partir de laquelle on peut faire du carotène. Cette molécule s'appelle le GPP. Peu importe, il faut bien lui donner un nom aussi. D'accord? Alors pourquoi, alors que le riz dispose du GPP, il n'est pas capable d'en faire du carotène? Eh bien parce que pour transformer le GPP en carotène, il faut une chaîne de montage dans l'usine qui fait appel à trois ouvriers, trois enzymes. D'accord? Et si le riz n'a pas cette chaîne de montage, c'est qu'il n'a pas les gènes qui détiennent le secret de fabrication de ces ouvriers. Donc du coup, il a le GPP, mais il ne peut pas en faire du carotène. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a mis deux gènes de jonquilles qui permettent de faire les deux premières enzymes, un gène de bactéries qui permet de faire la troisième, et du coup, on a créé de toute pièce une nouvelle chaîne de montage dans le riz, qui est alors capable de transformer le GPP en carotène, et comme le carotène lui donne une couleur jaune-orangée, eh bien, on l'appelle le riz doré. D'accord? Alors, je vais vous parler des conséquences dans un instant également, je vous dis ce qui se fait. Et puis, je ne peux pas terminer le lexique, parce que bien que je ne peux pas être exhaustif, mais enfin bon, l'avantage avec les OGM dans l'agriculture, si je puis dire, c'est que quand on a décrit les plantes à pesticides, on a quasiment fait le tour, hein, c'est 99%. Et donc, je ne peux pas terminer sans parler des animaux. Parce que dans le domaine agroalimentaire, il y a aussi les animaux. Hein. Il y a les animaux qui sont cette fois-ci non plus destinés à rester dans un laboratoire pour servir d'outils, mais destinés à l'alimentation. Alors, les animaux transgéniques, il y a certains qui sont sur le point d'être commercialisés au Canada, vous en avez entendu parler, c'est des saumons géants. Alors les saumons géants, il y a des barbus de rivière également, des truites arc-en-ciel, etc. Mais c'est essentiellement du saumon. Alors ce sont des saumons dans lesquels on a bidouillé le gène d'hormone de croissance. On a tous un gène d'hormone de croissance hein, qui nous permet de fabriquer de l'hormone de croissance et donc qui nous permet de grandir. Les enfants qui n'en ont pas d'ailleurs, ou qui ont un gène abîmé, eh bien, ils restent petits, c'est le nanisme. Et d'ailleurs, on les soigne avec de l'hormone de croissance fabriquée par la technologie OGM, comme l'insuline, en laboratoire. D'accord ? Et donc, eh bien, on a bidouillé le gène d'hormone de croissance du poisson de telle sorte qu'au lieu de fabriquer, j'ai pas les chiffres, mais c'est l'idée qui compte, au lieu de faire, par exemple, je sais pas moi, 100 molécules d'hormone, il en fait 1000. Et du coup, il en produit 10 fois plus, donc il grossit beaucoup plus vite et il devient beaucoup plus gros. Et on est allé jusqu'à des poissons qui font 10 à 11 fois la taille normale. Vous savez qu'un saumon, en moyenne, c'est 75 cm, hein. Vous imaginez le bestiau. Bon, c'est, quand on dit 11 fois la taille, c'est pas 11 fois la longueur, c'est 11 fois la masse, mais enfin quand même, hein. Et ceux qui sont sur le point d'être commercialisés font 4 à 5 fois la taille normale du saumon. Déjà pas mal, hein. Ensuite, il y a des choses qui se préparent également. Je pourrais pas être exhaustif. Parce que je connais pas tout d'abord, et puis ensuite parce que il y a énormément de choses. On essaie de faire des vaches sans cornes, des truies sans dents, etc. Et notamment là, des porcs géants. Alors ça fait plus de 2 ans que j'ai cette info. J'arrive pas à en savoir plus parce que non, secret industriel oblige. C'est fait par des chercheurs au Texas à Houston qui nous proposent des porcs géants. Ils les ont fait en laboratoire. Pour le moment, c'est en laboratoire. J'espère que ça va pas sortir. Mais voilà ce qu'on trouve quand on lit l'information. Je vous donner l'information telle qu'on la trouve dans les documents. Vitesse de croissance 40% plus élevée. C'est-à-dire que le cochon, il grossit 1,5 fois plus vite que la normale. Taille adulte, 40% supérieure à la normale. C'est-à-dire que le cochon adulte fait 1,5 fois la taille du cochon normal. On se dit, ça doit manger un bestiau comme ça. Eh bien, c'est le scoop. Ratio alimentaire, 25% inférieur. Il mange moins, il rejette moins, il grossit plus. Il y a de quoi lécher un certain nombre de monde, là encore. Mais vous voyez, dans mon préambule, quand je parlais d'outils génétiques de marketing, je pensais à ça en particulier. Parce que quand on lit la fiche technique du cochon, là, on a l'impression de lire la fiche technique d'un téléphone portable. On peut envoyer des SMS, lire ses mails et tout. Mais c'est pas un téléphone portable, c'est quelque chose qui est destiné à l'alimentation. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est, est-ce bien utile? Mais bon, on peut en parler après. Hein? Alors, juste pour terminer la page, d'autres porcs transgéniques donc qui sont faits en Australie. Alors voilà ce qu'on trouve, hein, pareil, hein, on a que ça comme info. Croissance plus rapide, donc ils grossissent plus vite, un petit peu comme au-dessus. Viande de meilleure qualité, je sais pas ce que ça veut dire. Résistant aux maladies courantes, vous voyez. Il manque plus qu'il fasse l'amour mieux qu'un homme et ce sera parfait, mais ça va venir, on peut tout faire. Voilà. Alors je termine avec les risques sanitaires et les risques environnementaux. Donc je vais poser un certain nombre de questions. Parce que, en fait, on pourrait dire, bon, il y a des gens ici qui sont peut-être, qui viennent sans avis, sans aucune opinion sur la question, ou qui sont peut-être très favorables aux OGM, j'espère qu'il y en a d'ailleurs, parce que c'est le débat qui fait respirer la démocratie, débat contradictoire. Donc j'espère qu'il y en a et qu'on pourra débattre ensuite. Mais on pourrait se dire, chacun d'entre vous, vous voulez vous faire une opinion au cas par cas, par exemple. Pourquoi pas? Très bien. C'est-à-dire, moi, pour chaque OGM, je veux voir les avantages et puis les inconvénients, puis je veux peser la balance. Je veux voir dans quel côté penche la balance. Le problème, c'est que les avantages, on va toujours vous les donner, parce que le promoteur d'OGM, il va pas oublier de vous donner les avantages. D'accord? Ça, c'est pas propre qu'aux OGM. Le vendeur de bagnole, il va pas vous dire qu'elle se renverse dans les virages, c'est normal. Hein, il va vous dire que ça roule bien. Bon. Et puis, par contre, pour savoir, vous, ce qu'il faut mettre dans la balance des inconvénients, en contradiction avec les avantages, pour savoir, en fonction de votre sensibilité, de vos opinions, de différentes choses, bon. Savoir, vous, ce que vous en pensez, il faut que vous puissiez savoir quels sont ces inconvénients potentiels. Et ça, s'il n'y a pas des scientifiques indépendants qui sont là pour vous dire, voilà les questions qu'on est en droit de se poser, sachant que je ne pourrais pas être exhaustif, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Et donc, c'est notre rôle de dire, voilà les questions qu'on est en droit de se poser. Hormis le fait, est-ce bien utile, mais j'y reviendrai en conclusion. Alors, il faut savoir, je l'ai dit, 99% des plantes agricoles transgéniques sont des plantes à pesticides. Donc, des plantes qui peuvent accumuler des pesticides dans leurs cellules. La moindre des choses serait que ces plantes soient évaluées comme des plantes, certes, mais également comme des pesticides, puisqu'elles accumulent des pesticides dans leurs cellules et qu'on va les donner à manger à des animaux. Donc, il faudrait les évaluer comme des pesticides. Or, la législation européenne sur les pesticides, on peut penser qu'elle est déjà trop laxiste, mais elle est relativement claire. Elle dit, c'est la directive 91-414, que pour qu'un pesticide obtienne une autorisation de mise sur le marché, il faut qu'il ait subi avec succès des tests sanitaires, des tests toxicologiques sur 3 espèces animales pendant 3 mois, dont le rat et la souris, et en plus de ces tests à 3 mois, des tests à 2 ans sur le rat, en général le rat, qui 2 ans, ça correspond à peu près à la durée de vie du rat. Donc c'est précis. On en pense ce qu'on veut, ça peut être insuffisant, mais c'est déjà précis. Dans le cas des plantes OGM, qui sont des plantes à pesticides, rien du tout. La législation européenne ne prévoit rien. C'est à l'appréciation des comités d'évaluation des pays membres. C'est-à-dire que quand Monsanto veut introduire un OGM en Europe, il choisit son pays d'évaluation. Ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne, etc. Et donc ce pays d'évaluation, c'est la France par exemple, eh bien elle est dotée d'une commission d'évaluation des OGM en plein air, qui est la CGB, la commission du génie biomoléculaire. Et cette commission, également l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, va donc dire si elle estime qu'il faut des tests sanitaires ou pas. Si elle dit non, il n'y en a pas. Si elle dit oui, il y a des tests. Mais pour des raisons de secret industriel, ces tests sont faits par un laboratoire choisi par la firme semencière. Et donc évidemment, on n'a pas accès aux résultats. Et les quelques résultats auxquels on a eu accès, ça a été au prix de batailles juridiques et administratives monstrueuses, comme dans le cas, j'en parlais tout à l'heure, du maïs Monsanto 863, qui a été autorisé il y a quelques mois en Europe. Ce maïs Monsanto 863, qui résiste donc à la chrysomèle, cet insecte des aéroports militaires, là, qui a traversé l'Atlantique en l'espace de quelques heures, alors qu'il n'a jamais réussi à traverser les États-Unis du sud au nord pendant plusieurs siècles, mais bon. Donc c'est comme ça, des fois il y a des préférences pour les voyages. Hein. Donc toujours est-il que ce maïs Monsanto, il a été évalué par l'Allemagne. Donc l'équivalent de la CGB en Allemagne a demandé des tests à 3 mois sur des rats. Monsanto a donc fait faire ces tests par un laboratoire choisi par lui. Et Greenpeace en Allemagne a dit, c'est un problème de santé publique, on doit avoir accès aux résultats. Et on leur a dit non, secret industriel. On ose imaginer ce que doivent être d'ailleurs les résultats de tests toxicologiques s'ils sont en mesure de porter atteinte à la position concurrentielle de l'entreprise. Je veux dire, normalement, une entreprise aurait tout intérêt à dire, ben regardez un petit peu comme c'est joli, hein, il n'y a aucun effet, c'est formidable. Si elle le cache, on a déjà raison de douter, déjà premièrement. Donc Greenpeace a demandé à avoir accès à ces tests et on leur a dit non, secret industriel. Ils ont saisi la Cour de justice allemande qui a donné raison à Greenpeace et donc on a pu avoir accès à ces tests. Et il y a eu un ou deux autres exemples en dehors du Monsanto 863 où on a eu accès aux tests. Et puis il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites également par des laboratoires indépendants, par Manuela Malatesta en Italie, par Arpad Pouzzai quand il était en Angleterre, etc. et par d'autres. Et à ce moment-là, tous les tests auxquels on a pu avoir accès, y compris et surtout je dirais le Monsanto 863, montrent des effets sur les rats qui ont été nourris avec les OGM par rapport aux rats contrôles qui ont été nourris avec les plantes conventionnelles. Alors, par exemple, bon, si vous allez sur le site de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, donc l'équivalent européen de l'AFSA, et que vous tapez MON 863, vous pouvez accéder, grâce à Greenpeace donc, aux conclusions des études sanitaires faites avec le Monsanto 863 sur les rats. Alors on vous donne les conclusions, et on vous dit effectivement, il y a les rats qui mangent les OGM ont des lésions rénales, ils ont le foie 20% plus gros, ils ont une modification du nombre de globules rouges, une modification du nombre de globules blancs, ils ont une modification du poids, etc., etc. Et la conclusion, c'est ces tests sont statistiquement significatifs, mais biologiquement non significatifs. Autrement dit, on nous dit l'eau pourrait être polluée, mais vous pouvez la boire. Alors que la moindre des choses, nous, on ne dit pas que ces tests sont suffisants pour prouver la toxicité, mais on dit qu'ils sont suffisamment inquiétants pour au mieux appliquer le principe de précaution, au pire, demander à ce que ces tests soient refaits par les laboratoires indépendants jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, que ce soit dans le sens de l'innocuité ou dans le sens de la toxicité. Quand on fait des expériences dans un labo, si nos expériences n'ont pas été faites plusieurs fois de façon reproductible, eh bien, elles nous sont refusées. On considère que c'est pas une bonne expérience. C'est là ce qu'on apprend à nos étudiants, la reproductibilité. Eh bien là, on l'a fait qu'une fois. Et on conclut que c'est biologiquement non significatif. Et pourquoi on nous dit que c'est biologiquement non significatif, dans le cas du Monsanto 863 par exemple? Eh bien parce qu'on n'a pas les mêmes effets, par exemple, chez les mâles et les femelles. C'est-à-dire que tous les mâles, par exemple, qui ont mangé des OGM, sont plus maigres que les rats contrôles qui n'en ont pas mangé. Et toutes les femelles sont plus grosses. Donc globalement, ça va, quoi. Vous voyez, vous prenez un homme, vous lui mettez la tête dans un four à micro-ondes, les pieds dans un bloc de glace, et vous dites que la température du corps moyen est bonne. Voilà. C'est très sérieux, ça. Alors que la moindre des choses, ce serait quand même de dire, mais attendez, puisqu'il y a des effets liés au sexe, on va faire des dosages hormonaux. C'est la moindre des choses et c'est ce que ferait n'importe quel biologiste digne de ce nom en voyant les résultats, en disant s'il y a des différences liées au sexe, c'est la première chose qu'on vérifie si ce n'est pas lié aux voies hormonales. Eh bien non, il n'y a eu aucun test hormonal et à côté de ça, on a autorisé. Au nom de quelle urgence? Qui? S'il y avait une urgence, si ça permettait, je ne sais pas, de résoudre un grave problème sanitaire ou humanitaire sur la planète, je ne sais pas moi, je pourrais comprendre qu'on puisse effectivement court-circuiter les étapes et prendre d'éventuels risques. Mais là, quelle est l'urgence? Ce sont ni les consommateurs, ni les agriculteurs qui sont les frappés chez Monsanto pour demander ce maïs. La seule urgence, c'est celle du profit, celle du brevet. Et alors, on pourrait dire, mais peut-être que le projet de loi français va combler ce vide juridique européen, ce vide législatif. Ben, pas du tout. Le projet de loi européen, français, ne prévoit aucun encadrement des études sanitaires sur les OGM. Et mieux que ça, l'article 16 de ce projet de loi dit que les résultats des analyses toxicologiques peuvent être, à la demande de la firme semencière, tenus confidentiels à l'égard du grand public pour des raisons de secret industriel. Autrement dit, on a un projet de loi qui met officiellement la santé publique à la remorque des intérêts financiers de ceux qui promeuvent les OGM. Donc moi, je voyais, indépendamment du fait d'être pro ou anti-OGM, je dirais en tant que scientifique, mais surtout et aussi en tant que citoyen, je ne comprends pas comment des élus qui sont censés représenter le peuple et qui sont censés être garants de la sécurité du peuple, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient pour ou contre les OGM, comment ils peuvent voter un texte pareil. Ça, franchement, je ne comprends pas et ça me fait mal à l'estomac. Alors, bon, Jean-Pierre Berland en a parlé tout à l'heure, hein, les plantes à pesticides également, vous avez des plantes bon, qui tolèrent le Roundup, par exemple, donc elles vont accumuler du Roundup. Hein. Je dis le Roundup, on nous a dit que on pouvait en boire. Bon, il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré à grande échelle que les femmes des agriculteurs, enfin les agricultrices qui étaient utilisatrices intensives de Roundup avaient un taux de fausse couche supérieur à la moyenne nationale, que les agriculteurs avaient un taux de stérilité supérieur à la moyenne nationale. Et Gilles Rex Serralini, dans son laboratoire à Caen, a montré à l'échelle moléculaire ce qui pouvait expliquer ces effets observés sur une échelle statistique. C'est-à-dire qu'il a montré que le Roundup a des doses inférieures aux doses utilisées en agriculture, pouvait toucher était toxique pour les cellules placentaires, ce qui pourrait expliquer les fausses couches, et également affecter une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui est une enzyme clé de la voie sexuelle hormonale masculine, qui pourrait expliquer donc la stérilité. Voilà, mais malgré ça, le Roundup, c'est pas grave. Les risques d'allergie, bon, ça, on pourrait dire, oui, effectivement, on met un gène étranger dans une plante, donc on met des nouveaux ouvriers, des nouvelles protéines qui n'ont rien à faire dans cette plante. Donc, évidemment, la personne qui mange cette plante peut développer une allergénicité contre ces protéines, par exemple. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui sont allergiques aux crustacés, d'autres qui sont allergiques au poulet, on le sait, ils n'en mangent pas, effectivement. Mais le problème, c'est de savoir si ces OGM sont évalués du point de vue de l'allergénicité. On pourrait dire, non, mais attendez, ils sont quand même pas assez cons pour faire un truc pareil. C'est vrai, j'entends souvent cet argument. Alors quand même, faut arrêter de leur jeter tout le temps la pierre. Eh ben oui, j'aimerais bien, moi, tenir ce discours. Ils sont quand même pas assez cons pour faire ça. Eh ben oui, mais le problème, c'est qu'on a la preuve que si. Parce qu'ils ont fait un soja transgénique dans lequel ils ont mis le gène de la noix de coco du Brésil, qui détient le secret de fabrication d'une protéine riche en soufre. Parce que le soja a beaucoup de protéines, mais il n'y a pas assez de soufre dans ces protéines. Et donc, on a voulu enrichir la teneur soufrée des protéines du soja en y mettant une protéine de la noix de coco qui est riche en soufre. C'était pas très malin parce que cette protéine de la noix de coco était connue pour être très allergène chez les consommateurs de noix de coco du Brésil. Et on l'a mis dans le soja. Et ce soja s'est avéré très allergène et donc tous les stocks ont été détruits. Attends cette fois-ci, savoir si ce sera toujours détruit. Attends. Et puis, il y a les problèmes. Alors pareil, je suis pas exhaustif, hein, je pose un certain nombre de questions. C'est pas dans tous les OGM. Là, j'ai fait un abus de langage, c'est dans la plupart, mais pas dans tous. Il y a un gène de résistance aux antibiotiques. Alors ça, pourquoi, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une raison technique. Quand on fabrique un OGM, hein, on met des cellules et puis de l'ADN à côté, puis on essaie que ça rentre. Mais il n'y a que quelques cellules qui vont recevoir l'ADN étranger. La plupart ne vont pas le recevoir. Et comment les repérer de l'extérieur, ces quelques cellules? C'est l'aiguille, ça, c'est une botte de foin qui a une aiguille parmi plein de bottes de foin. Il faut repérer la seule qui a une aiguille. Eh bien, on met tout simplement, en plus du gène d'intérêt, on met un gène de résistance aux antibiotiques, par exemple, qu'on appelle un gène marqueur, qui va conférer une résistance aux antibiotiques aux cellules qui ont reçu l'ADN étranger. Donc, vous mettez de l'antibiotique dans le milieu de culture, et uniquement les cellules qui ont reçu l'ADN étranger, donc qui ont reçu le gène de résistance aux antibiotiques avec, vont être résistants et vont survivre. Donc, c'est un moyen de repérer, c'est une facilité technique dans la réalisation de l'OGM. Le problème, c'est que le gène de résistance, il n'est pas enlevé après. Et par exemple, le maïs Monsanto 863, il a un gène de résistance aux antibiotiques. Et la question posée, c'est quel est le risque que ce gène soit transféré de façon horizontale, donc aux bactéries de l'intestin de l'animal qui mange cet OGM, quelles peuvent être les conséquences en termes de clinique humaine, etc., etc. Alors ça, c'est quand même une question qui préoccupe, puisque dans le projet de loi français, on nous dit à partir de 2009, il n'y aura plus d'OGM autorisé avec des gènes de résistance aux antibiotiques. Alors moi, j'ai encore appris beaucoup de choses en lisant ce projet de loi. J'ai appris notamment que les gènes de résistance aux antibiotiques ne sont dangereux qu'à partir de 2009. Eh oui. Donc, et ensuite, il y a les problèmes liés, alors ça on n'en parle jamais, à la perturbation du métabolisme de l'OGM. Quelqu'un disait, il me posait une question, je crois que c'est vous monsieur, à Jean-Pierre Berland tout à l'heure, en disant, mais quelle est la différence avec ce qu'on fait, ce qu'a toujours fait la nature, etc. Bien voilà, la différence elle est là, Jean-Pierre Berland l'a expliqué, je vais revenir dessus, où effectivement on maîtrise rien de ce qu'on fait. Vous allez mettre un gène étranger dans une plante ou dans quelque chose, vous allez introduire un nouvel ouvrier dans l'usine. Déjà, ce gène, on ne sait pas où il va aller, sur quel chromosome, à quel endroit. Il risque d'inactiver des gènes naturels de la plante ou de les suractiver. Et donc, ça va avoir des conséquences sur le métabolisme de la plante qu'on ne maîtrise pas du tout. Alors que quand vous faites avec un papa et une maman, vous mélangez des choses, certes, mais ces choses sont faites pour se mélanger et se mélangent très bien, en harmonie. Et ça, nous, on croit pouvoir intervenir là-dessus, mais on en est bien incapable. Et quand on vient nous mettre qu'un seul gène de l'extérieur, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et en plus, on va introduire des nouveaux ouvriers dans l'usine qui vont contribuer à une nouvelle chaîne de montage, une nouvelle chaîne de démontage. Mais il y en a plein des chaînes de montage et de démontage dans l'usine. Et ça va interférer avec tout ça. Partez pas en courant, mais ça, c'est une partie. Je dis bien une partie seulement, et on est loin de connaître tout, de ce que l'on connaît du métabolisme qui a lieu dans chacune de nos cellules. Chaque trait, c'est une chaîne de montage et une chaîne de démontage, un processus biologique. Chaque point, c'est un ouvrier, c'est une enzyme. Eh bien, tout ça, c'est un véritable imbroglio, un véritable réseau autoroutier avec des échangeurs dans tous les sens. Et là, il n'y a personne, et quand on fait les OGM toutes les semaines, on sait bien qu'on ne maîtrise pas les effets collatéraux d'une modification génétique dans un imbroglio pareil. Il n'y a personne, et même pas Claude Allègre, qui est capable de recenser de façon exhaustive ce que peuvent être à court, à moyen ou à long terme les conséquences d'une modification génétique sur le métabolisme de l'organisme. Ça n'existe pas. Moi, par exemple, je travaille sur un champignon du sol qui se nourrit de plein de choses, et notamment d'alcool. Hein, il s'offre du bon temps. Et j'étudie le métabolisme de l'alcool. J'ai inactivé un gène qui est nécessaire à l'utilisation de l'alcool. C'est-à-dire j'ai supprimé un ouvrier de la chaîne de démontage de l'alcool dans l'usine cellulaire de mon champignon. Mon étudiant en thèse me prend mon champignon, fait des expériences avec. Il essaie de le croiser parce qu'il a une vie sexuelle aussi, mon champignon. Il essaie de le croiser et il me dit « Christian, le champignon est stérile. » J'ai touché un gène du métabolisme de l'alcool et le champignon est devenu stérile. Et oui, il est devenu stérile. Maintenant, d'ailleurs, je me plais à dire que j'étudie la relation entre le sexe et l'alcool chez mon champignon. Alors moi, c'est intéressant parce que je rebondis là-dessus pour essayer de comprendre comment c'est connecté, pourquoi il y a un rapport entre les deux. Mais imaginez que bon, la stérilité, ça saute aux yeux. La stérilité, oui, ça saute aux yeux, mais ça peut être des phénomènes, des choses beaucoup plus discrètes que l'on ne voit pas et qui peuvent s'avérer très dangereuses. Le fameux saumon géant qu'on a fait au Canada. On nous parle, vous savez, pour les OGM, d'équivalence en substance. C'est-à-dire qu'un OGM ne diffère de l'organisme non OGM que par les caractères exprimés par les transgènes. Par le reste, ils sont totalement équivalents. Mais comment peut-on tenir un discours pareil? Je veux dire, ce saumon géant, par exemple, il ne devrait différer du saumon normal que par la taille, puisqu'on a joué sur le gène d'hormone de croissance. Ce poisson, il fait du diabète. Il est très agressif, il a la tête déformée. À tel point que les gens n'en voulaient pas là-bas, ils disaient, les poissonniers, on va pas mettre ça sur l'étal. Les consommateurs en voudront pas, on leur a dit, c'est pas grave, vous ferez des filets. Et effectivement, ça va se vendre comme filet, ce poisson. Au lieu de se dire, pourquoi a-t-il la tête déformée? Première question, non? Il y a une urgence à consommer du poisson qui fait 5 fois la taille normale, au point de prendre des risques pareils? Voilà. L'équivalence en substance, foutaise, mais vraiment foutaise. J'ai un étudiant qui mettrait ça dans une copie, je suis sûr qu'on y mettrait un zéro pointé. Mais quand on est expert, on a forcément raison. Alors, perturbation du métabolisme, je vais vous donner un exemple concret de ça, qui est prévisible celui-là parce que c'est dans la fenêtre où on regarde. Je vous ai parlé du riz doré, c'est un riz qui fait de la vitamine A, parce qu'on lui a permis de transformer le GPP en carotène. Mais le GPP, s'il est dans le riz, c'est pas pour faire du carotène, puisque le carotène, il sait pas le faire. C'est pour faire autre chose. Ben oui, le GPP, il permet de faire de la vitamine E, des chlorophylles et de l'acide gibbérellique, qui est une hormone de plante. Eh bien, quand on rajoute une quatrième chaîne de montage de toutes pièces là-dedans, qui permet de transformer le GPP en carotène. Tout ce qui passe dans la voie rouge, ça passe pas dans les voies noires. Et en fait, ce riz, évidemment, eh bien, on s'attend à ce qu'il fasse moins de vitamine E, moins de chlorophylle et moins d'acide gibbérellique. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui a été vérifié sur un certain nombre de plants de riz transgéniques, notamment moins de vitamine E. Mais c'est des choses qui sont prévisibles parce que c'est dans la fenêtre où on regarde. Mais le métabolisme, mon schéma bleu tout à l'heure avec tous les traits dans tous les sens, c'est tellement complexe qu'on ne regarde jamais tout. On ne regarde que dans une fenêtre très étroite. Et si ça se passe à l'extérieur de là où on regarde, mais on le voit pas. Mais à part ça, équivalence en substance. Et puis je termine, et là c'est vraiment la fin, avec les risques environnementaux. Alors, on nous parle de plantes qui résistent aux ravageurs. On nous dit c'est formidable. Vous voyez, une plante qui résiste à la pyrale, il n'y aura plus besoin de pulvériser le BT, il n'y a plus besoin de la méthode conventionnelle qui consiste à pulvériser, on ne pulvérise plus. Et comme on ne pulvérise plus, ça ne se voit pas, donc c'est bon. Non mais attendez, ce qu'il faut comparer, c'est quelle est la quantité qui est pulvérisée de façon occasionnelle, avec la quantité qui est produite en permanence par la plante. Le paysan qui se... Moi, je suis fils de paysan. Mon père faisait un petit peu de maïs pour ses besoins personnels, au niveau de la ferme. C'est une toute petite ferme. Hein. Une ferme, quoi. Eh ben, j'ai jamais vu de pyrale. Moi, quand j'étais gamin, je savais pas c'était que la pyrale. J'ai découvert ça beaucoup plus tard. Et parce que j'en ai jamais vu. Et puis il y a plein de gens, je sais pas combien il y a de gens ici qui font du maïs, mais on peut faire une étude statistique, combien ont été embêtés par la pyrale ces 3 dernières années, hein, on va voir. Hein, mais j'ai déjà fait ça, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les gens qui sont pas embêtés par la pyrale, parce qu'ils font des cultures tournantes, parce que etc. Ceux qui sont embêtés par la pyrale, c'est ceux qui font des énormes hectares, sur des surfaces énormes tous les ans, sur les mêmes parcelles, parce que c'est des véritables phares allumés dans la nuit pour les papillons. Mais ceux qui font des cultures tournantes, par exemple, ils sont pas embêtés par la pyrale. Eh bien, ils vont traiter, s'ils sont embêtés par la pyrale occasionnellement, ils vont traiter que si la pyrale attaque. Pourquoi? Parce que c'est pas la pyrale qui est dangereuse, c'est la chenille. Donc si on tue le papillon avant qu'il ponde ses œufs, c'est gagné. Et donc du coup, on fait pas de préventif, on fait que du curatif. Donc si la pyrale n'attaque jamais, ben on ne traite jamais. Or, le maïs, là, que la pyrale soit là ou soit pas là, il produit la toxine. Quelle est la quantité produite par ce maïs, par des hectares et des hectares, des milliers d'hectares de maïs qui produisent localement cette toxine? Quelle est la quantité qui passe dans le sol? Quelle est la quantité que vont récupérer les abeilles et qui va se retrouver dans le miel ou je ne sais quoi, etc. etc. Voilà les questions qui sont posées. Donc, nous dire que ça permet de moins de... Mais c'est la foutaise. Et puis, alors... Bon, il y a le problème de sélection d'insectes, mais j'ai pas le temps de tout développer, mais on pourrait y revenir pendant le débat si vous voulez. Les plantes résistantes aux herbicides. Alors là, si on fait une plante qui résiste à un herbicide, c'est certainement pas pour mettre moins d'herbicides. D'autant plus que celui qui vend l'herbicide, comme le disait Jean-Pierre Berland, c'est le même que celui qui vend la plante. Donc son intérêt, c'est pas d'en vendre moins, évidemment. Donc c'est déjà biaisé. Mais en plus, si on fait une plante qui résiste à un herbicide, le but c'est de pouvoir arroser la plante sans qu'elle meure. Et donc qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, je sais pas si vous avez vu le soja de la faim, le film en Argentine, où ils ont déforesté, ils ont fait des surfaces énormes de soja qu'ils arrosent avec des hélicoptères. Donc, et là, le Roundup, évidemment, ils y vont à foison, parce qu'il n'y a plus de précautions à prendre, la plante résiste. Et qu'est-ce qu'on a vu en fait? On a vu que la consommation de Roundup au Canada et ailleurs, et en Argentine et ailleurs, a considérablement augmenté parce que justement les plantes résistent. Et donc ils n'ont plus besoin de prendre de précautions. Et plus ils en mettent, plus les seuils de tolérance des mauvaises herbes sont élevés, plus on en met l'année d'après, etc. C'est un cercle vicieux. Et voilà. Et puis je prends juste un exemple de risque environnemental avec les animaux transgéniques. Je vais prendre l'exemple du poisson géant. Ça va être fait en pisciculture, hein. Bon, ok. Je dis, et un poisson qui s'échappe. On dit, oh, mais attends. Hey, si tu voulais pas de risque, fallait pas naître. Bon, d'accord. Je vais repartir en bagnole, je vais peut-être avoir un accident. C'est vrai. Sauf que si j'ai un accident avec ma bagnole, il n'y en a aucune raison, a priori, que ça augmente le nombre d'accidents sur la route, en France ou ailleurs. Alors que là, je prends qu'un seul poisson qui s'échappe. Un seul. C'est que dalle, un poisson qui s'échappe, on s'en fout. Oui, mais il fait 5 ou 6 fois la taille normale. Il a donc un avantage sur ses petits copains. Il va pouvoir déjà manger des petits poissons avec lesquels il aurait dû cohabiter. C'est-à-dire qu'il va devenir un prédateur qu'il n'était pas. Donc il va porter atteinte à la biodiversité locale, premièrement. Deuxièmement, comme il peut se nourrir plus facilement, il va proliférer plus facilement. Il va aller fricoter avec des femelles qui vont faire des petits qui vont devenir très gros parce qu'elles ont récupéré le gène de croissance de l'hormone de croissance du papa. Donc bientôt, il n'y aura plus que des poissons géants. Alors qu'il n'y en avait qu'un au départ qui s'est échappé. Parce que le gène qui a été récupéré est un gène qui confère un avantage sélectif dans un écosystème donné. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de raconter, eh bien, et que vous ne l'avez pas encore vu, allez voir le film Le Cauchemar de Darwin, et vous verrez comment l'introduction, ce n'était pas des OGM à l'époque, hein, mais c'était des perches qui n'avaient rien à foutre dans le lac Victoria en Tanzanie. Lac Victoria, c'est plus grand que l'Irlande, hein. Alors on va dire 3 perches dans un lac comme ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh bien oui, aujourd'hui, tout l'écosystème végétal animal a disparu, à tel point qu'il n'y a plus que des perches, et pour se nourrir, eh bien, elles sont devenues cannibales, elles se mangent entre elles. Voilà. C'est ça le problème, c'est que le risque environnemental avec les OGM n'est pas un risque qui se dilue avec le temps, c'est un risque qui se concentre dans le temps. Et puis, ce sera vraiment la fin, je ne peux pas ne pas en parler, la pollution génétique. La pollution génétique, c'est-à-dire le risque qu'un gène étranger que vous avez introduit volontairement dans une plante se retrouve involontairement dans une autre ou dans un autre organisme. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la pollution verticale et la pollution horizontale. La verticale, c'est des parents aux enfants. C'est-à-dire par la voie du sexe, donc pour les plantes, le pollen. Alors, je prends l'exemple du colza. Hein, le colza, c'est une plante qui se pollinise à la fois par le vent et par les insectes, mais même si c'est que l'un ou l'autre, moi je ne vois pas comment on peut contrôler le pollen dans la nature. Mais bon, les plantes n'ont pas attendu les chercheurs pour échanger leur pollen. Mais en plus, le colza est une plante qui est capable de se croiser avec beaucoup de plantes sauvages, des plantes adventices, des plantes sauvages de colza qui poussent dans les champs et qu'on ne veut pas. Et puis, elle est capable de se croiser avec des mauvaises herbes comme la ravenelle. Alors là encore, on peut dire, il va peut-être y avoir un pied de ravenelle qui va récupérer le gène de résistance par croisement. Parce qu'on n'aurait pas eu de chance. Ben ok, un pied de ravenelle qui récupère le gène de résistance, c'est rien, un pied de ravenelle. Mais comme on met beaucoup de Roundup, eh bien ce pied de ravenelle qui est le seul résistant, il va se sentir bien. Tous les autres vont crever. Il va être le seul qui va survivre, il va être le seul qui va se reproduire. Et donc, il n'y aura plus bientôt que des ravenelles résistantes. Événement rare aujourd'hui, événement majoritaire demain. Et puis, il y a bien sûr l'égrenage du colza. Tous les gens qui font du colza savent que les graines de colza sont capables de repousser pendant 15 ans. Donc, c'est bien sûr incontrôlable. Et puis, quelque chose qui n'est pas propre au colza, mais qui est valable pour toutes les plantes, c'est le transport de graines par les oiseaux, par les rongeurs, etc. Et quand on nous prétend qu'il est possible d'obtenir une parfaite étanchéité entre les filières agricoles, on se fout franchement du monde. Hein. Voilà, alors ça, c'est des expériences qui ont été faites par le CIRAD pour étudier la propagation du pollen du colza. Hein, au centre, vous avez un champ de 9 mètres de diamètre, je ne sais pas si vous voyez, il est entouré par un cercle blanc, c'est du colza transgénique, colza au Roundup, et il est entouré par un champ de 110 mètres de diamètre, hein, 55 mètres de rayon, de colza conventionnel. Alors si le champ est circulaire, c'est pas pour que les faucheurs le reconnaissent plus facilement, c'est pour étudier la propagation du pollen dans toutes les directions. Sauf que le pollen, il s'arrête pas à 55 mètres comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à la frontière franco-allemande. Et on a osé appeler ça de la recherche. Alors moi, déjà, étudier la propagation du pollen, là, franchement, je vois franchement pas comment on peut contrôler ce genre de choses. Mais admettons qu'on veuille quand même étudier la propagation du pollen dans une niche écologique donnée en fonction de la falaise, en fonction de ceci, cela. Mais ça doit être un essai, ça doit être une simulation. Un essai, par définition, c'est une simulation, c'est-à-dire quelque chose de non dangereux. Quand on fait une simulation d'une attaque chimique dans le métro pour entraîner la coordination des secours, on met tous les ingrédients, mais on met pas l'agent chimique quand même. Eh bien là, on veut étudier l'évaluation du risque de la plante et on met la plante. Alors que je suis désolé, mais il n'y a aucunement besoin de mettre la plante transgénique pour étudier la propagation du pollen. Comment on faisait avant pour étudier les propagations de pollen ou pour étudier, pour suivre une plante dans la nature par rapport aux autres plantes? Eh bien, grâce à ces empreintes génétiques. Tout comme on est capable d'identifier un individu parmi tous les individus avec ses empreintes génétiques. Et voilà. Et donc, ça, Jean-Pierre Berland pourra certainement parler beaucoup mieux que moi. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le RFLP. Ben, on fait le RFLP de la plante, puis on est capable de suivre et de distinguer une plante parmi toutes les autres plantes d'une niche écologique donnée. Donc, il n'y a aucunement besoin, si on veut vraiment faire ces expériences, d'y mettre la plante transgénique. Et puis, le dernier truc, c'est la pollution horizontale. Alors là, c'est le pompon. La pollution horizontale, c'est quoi? Le transfert horizontal, c'est le fait que l'ADN puisse être transmis d'une plante à, par exemple, à un microbe du sol. Donc là, c'est pas des croisements, parce que les microbes se croisent pas avec les plantes. C'est pas du croisement sexué. Simplement, il y a des microbes dans le sol, des champignons microscopiques, des bactéries qui sont capables de gober de l'ADN naturellement. Bon, ça, c'est quelque chose de très connu. Mais quand j'étais témoin au procès de Toulouse, avec Jacques Testard, l'un des maïs qui avait été fauché et qui faisait l'objet du procès, c'était le maïs BT11 de Saint-Ginta. Un maïs BT, donc. Et donc, c'était fait par la société Pionnier. Et dans la demande par Pionnier, la demande d'autorisation de dissémination volontaire pour faire ces essais, qui avait été transmise à la CGB, à l'AFSA, etc., dans cette demande, vous pouvez le vérifier si elle est encore accessible sur le site du ministère de l'Agriculture, pour ceux qui ont Internet, eh bien, dans cette demande, il est dit, je l'avais amené au président de la Cour, c'est à la page 14, transfert horizontal. C'est marqué, transfert horizontal, deux points, mot pour mot. Selon les données de l'AFSA de 2002, parce qu'on était en 2003, hein, c'était une demande pour 2004, on était en 2003, au moment de la demande. Selon les données de l'AFSA de 2002, on ne voit pas ce que l'AFSA vient foutre là-dedans déjà, aucune expérience scientifique démontrant ce phénomène n'a été publiée. Aucune expérience scientifique démontrant ce phénomène n'a été publiée. Un biologiste qui nie le transfert horizontal, c'est un astrophysicien qui nie la Terre est ronde. Je suis allé sur le serveur qu'utilisent tous les chercheurs pour faire leur bibliographie, et j'ai tapé, nous on était donc en 2005, et moi j'ai tapé de 94 à 2004, les 10 dernières années. Et j'ai tapé transfert horizontal. J'ai eu 286 publications. Aujourd'hui, on est largement à plus de 300. 286 publications qui, certes, ne parlent pas tout du transfert horizontal entre les plantes transgéniques et autre chose, mais qui parlent du transfert horizontal, phénomène qui est nié par les scientifiques de l'AFSA, notamment tel que c'est rapporté dans cette demande d'autorisation. Et sur ces 286 publications, il y en a 3 qui démontre le transfert horizontal de gènes de résistance aux antibiotiques qu'on avait mis comme gène marqueur dans des plantes transgéniques et qui sont passés d'une betterave transgénique vers une bactérie, d'un maïs transgénique vers un champignon filamenteux qui vit au contact des racines et d'un tabac transgénique vers une bactérie. Mais à part ça, transfert horizontal, ça n'existe pas. Voilà. Alors, je voulais donner un exemple concret avec des virus, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de fatiguer tout le monde. Je vais simplement conclure en disant que vous l'avez compris, pour moi, les OGM, les organismes génétiquement monstrueux, c'est ceux qu'on dissémine dans l'environnement, parce qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise absolument pas, je sais, pour faire les OGM, et tous les gens qui font les OGM couramment savent à quel point c'est une technologie hasardeuse. Et donc, introduire des choses comme ça dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire, alors qu'il n'y a aucune urgence, qu'il n'y a aucune demande, c'est franchement totalement irresponsable. Et en plus, Le procédé par lequel on essaie d'imposer les OGM, il s'agit bien de les imposer, à l'ensemble des citoyens est un procédé totalement antiscientifique et antidémocratique. Antiscientifique parce que lorsqu'on est confronté à un sujet de recherche, par exemple, comment s'affranchir des dégâts occasionnés par la pyrale sur le maïs, c'est un sujet comme un autre, eh bien, en bon scientifique, on doit mettre à plat toutes les alternatives. La transgenèse en est une. Ok, parmi d'autres. Il y en a d'autres. Pour chacune d'elles, on doit regarder la faisabilité, les risques. Regarder si ces risques en valent la peine. Et si ces risques en valent pas la peine ou sont mal maîtrisés, eh bien, à ce moment-là, on doit se dire, est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens, des alternatives, qui permettraient d'arriver au même résultat sans courir ces risques-là? Et si on posait systématiquement ces alternatives, on se rendrait compte que faire appel à la transgenèse végétale dans l'agriculture, c'est déplacer une grue pour soulever un grain de sable. Parce qu'il existe plein d'alternatives. Simplement, pour en avoir conscience des alternatives, et c'est là que je dis que c'est antidémocratique, faut-il encore en discuter avec les gens concernés? C'est un problème agricole, on en discute avec les agriculteurs. On en discute avec les représentants des associations de défense de l'environnement. C'est un problème alimentaire, on en discute avec les représentants des associations de défense de consommateurs. Or, ça reste un problème purement scientifico-scientifique qui met l'ensemble des citoyens devant le fait accompli. Et alors, il y a quelque chose qui reflète parfaitement cette démarche, c'est le projet de loi qu'on nous propose. Ce projet de loi est censé légiférer la coexistence entre des plantes OGM, des cultures OGM et des cultures conventionnelles ou labellisées. Vous demandez à n'importe quel gamin de 10 ans, à ton avis, ça vient de quel ministère? Il va dire, bah, du ministère de l'Agriculture. Eh bien non. C'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est pas le ministère de la Santé, c'est pas le ministère de l'Environnement, c'est le seul ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Pour histoire de bien amalgamer le tout et de dire, vous voyez, c'est le progrès, c'est la recherche, et quand on s'oppose à ça, on est un passéiste et un anti-progrès. Or, je rappelle que l'OGM est un outil technologique au service de la recherche, mais que quand on fait du développement ici de plantes, on fait de l'innovation qui, elle, ne dépend pas du ministère de la Recherche, mais du ministère de l'Industrie. Donc ça n'a rien de la recherche. Et quand quelqu'un s'attaque à un champ d'OGM, il ne remet nullement la recherche en péril. Ce qui met la recherche en péril, c'est la politique de gribouille de notre gouvernement, mais certainement pas donc le fait d'aller faucher les champs d'OGM. Puis je dirais vraiment pour terminer que c'est pas parce que la planète est déjà une vaste poubelle qu'il faut en plus en faire une paillasse de laboratoire. Je vous remercie.